Hello les amis, heureux de vous retrouver en ce mercredi matin. Attendez, c'est pas mon setup habituel. Hop, normalement là, vous devriez me voir. Oui, en gros, ça va vous? Voilà, journée un peu particulière. D'abord alors, voilà, c'est les habitués, les plus fidèles savent où on est. Voilà, on est dans un studio qui n'est pas mon studio de stream habituel que j'ai inauguré en juin dernier, quand on avait fait un test justement, puisque en fait, voilà, on a... Je lance une toute nouvelle émission aujourd'hui à 12h, à midi, sur ma chaîne Twitch. Voilà. Dans un grand studio que vous allez découvrir, parce que certains Happy Few, les modérateurs, sont dans les confidences depuis le mois de juin, puisque les modos, eux, ont vu le pilote de cette première émission en juin dernier. Donc, ils ont vu le studio. Vous l'avez vu aussi sur les réseaux, puisque je l'ai montré rapidement dans un post, voilà, mais à 12h, vous découvrirez le studio de MVP. On va parler d'MVP, je vais vous rappeler ce qu'il y a dans cette belle émission qui est à venir. C'est vraiment sympa. Voilà. Et du coup, comme on n'est pas chez moi, on m'a prêté un autre petit studio, voilà, qui sera le studio de la revue de presse, de la matinée Étienne, au moins deux fois par mois, puisque cette émission MVP, elle est bimensuelle. Je dis au moins, parce que parfois, il y aura même trois émissions par mois en septembre, par exemple, il y aura... trois émissions. Voilà, donc c'est pas mon studio habituel, c'est ma foi, un joli décor. Il y a un clin d'œil. Il y a un clin d'œil à mon studio habituel, puisque vous retrouvez certains éléments de mon décor. Ici, on aime bien les néons, hein. Donc El Samuel Etienne. On aime bien ce petit jeu indé que personne ne connaît, qui s'appelle Valorant, d'où la Raze qui est juste derrière moi. Voilà, c'est un décor qu'on a composé ensemble. On voulait quelque chose d'un peu chaleureux, donc on a mis du bois, hein. Et puis on a le petit Tintin, le petit tableau du ici là, ouais, là, voilà, Tintin, voilà. Et vous l'avez deviné, on est sur un fond vert. Voilà, pas mal, hein. Voilà, c'est joli comme tout, non? Voilà. Et donc ce décor de matinée Étienne, vous le retrouvez deux fois au moins par mois. Pourquoi? Parce que après on enchaînera. C'est-à-dire que là je vous fais une petite revue de presse à la cool, tranquille. Il y a une actu assez intéressante. J'aurais rêvé de pouvoir commenter avec vous le nom d'un nouveau premier ministre, d'une nouvelle première ministre. Mais l'info n'est pas tombée, voilà. Donc on va parler de cette attente interminable ce matin, mais pas seulement, on va parler des Jeux Paralympiques, on va parler du nucléaire aussi avec le début de fonctionnement de l'EPR là, en France, donc ça c'est, il y a pas mal d'articles intéressants. On parlera de surréalisme aussi, il y a une très belle exposition sur le surréalisme. Donc on va faire une revue de presse à la cool, et puis vers 11h45, 11h50, eh bien fin de la revue de presse, mais je ne vais pas cut ce stream, hein. Je vais prendre un escalier, et je vais remonter jusqu'au studio de MVP. Ouais, de voir Philippe Saltipimousse vite fait. J'avoue, je n'ai même pas prévu de vous en parler de cette candidature à la présidentielle de Loire Philippe. Mais si vous insistez, je vous le ferai. Donc à 11h45-50, on mettra en pause. Hop, comme ça. Hein, et 10 minutes plus tard, on se retrouvera dans le décor de MVP avec trois chroniqueurs, trois invités. Voilà, c'est une émission qui est... Qui se veut ambitieuse, qui se veut intéressante sur le fond, ambitieuse sur la forme. Un an de préparation sur cette émission quand même. Et pour arriver à ce qu'elle est, à ce que vous avez découvert tout à l'heure. Après, c'est un numéro 1, hein, donc après, si vous avez des suggestions, des propositions, on la fera évoluer bien sûr. On est sur Twitch, on n'est pas à la télé. Et à midi, c'est parti. Voilà. La candidature d'Édouard Philippe va vite être éclipsée par la candidature de quelqu'un d'autre, me dit Sugar Grapefruit, ne me parlez pas de ça. Ça commence à me faire flipper cette histoire. T'as la fatigue. Ah, le réveil a sonné tôt. Normalement, je me réveille vers 5h pour lire les journaux pour vous. Hein. Il y a à peu près 3 heures de lecture à peu près. Tous les matins, quand je fais une revue de presse, là j'ai mis 4h, 4h15. Et puis, mon aîné Malo avait dû manger un truc qui passait pas, donc il était un peu... perturbé du ventre hier soir, et du coup on l'a pris avec nous, et il a beaucoup, voilà, il était pas malade cette nuit, mais il a beaucoup bougé, il s'est beaucoup retourné, donc du coup j'ai pas beaucoup dormi, voilà. Donc les yeux qui brillent là, c'est c'est la nuit qui a été courte. La tendinite elle est toujours là, mais c'est pas... oui, tiens, je vais remettre un coup de clim, bougez pas. Meilleure idée, plutôt que mettre la clim, pas forcément le meilleur truc pour l'environnement, ça. J'ai enlevé le sweat. Voilà. La technique de l'oignon. Voilà, bon, comment ça va vous ? Ce matin, donc je vais vous lire, hein, c'est ça qui m'intéresse. Moi, si je suis sur Twitch, c'est pour C'est pour vous parler, échanger avec vous. Ce matin, on va parler d'MVP, hein, en intro. Je vais vous rappeler le projet, parce que c'est notre projet. On va parler un petit peu du The Event aussi, voilà, avec un truc qui commence à me stresser là, par rapport à la présidentielle. Là, c'est la pire idée que j'ai eue là. Et puis, on commencera la revue de presse. Y a Gouab qui dit: tu stream sur Twitch, Samuel Etienne? Non. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Mais ça m'intéresse. De plus en plus de gens me parlent de cette plateforme Twitch, là. Je trouve que c'est truc de jeunes, là. Sur le web, je crois. Le World Wide Web, j'ai vu ça. Donc, ça, je vais commencer à me pencher dessus, ouais. Merci en tout cas de m'en parler, parce que je me suis fait un post-it sur mon frigo pour commencer à m'intéresser à ça. Tom Thompson me dit: Zera a fait des annonces en live sur le The Event hier. Importantes les annonces ou pas? J'ai pas vu. Ça m'intéresse. Oui, nouveau studio, deux ou trois fois par mois, la revue de presse, elle se fera dans ce nouveau studio, parce qu'il est tout près du studio où aura lieu MVP à 12h tout à l'heure, ma nouvelle émission sur Twitch. Tu devrais essayer, c'est sûr. L'internet, c'est un truc intéressant. Ok, j'irai voir. Twitch, c'est sur l'internet. Ok. Un jeune appelé Étoile t'apparaît de cette plateforme. Ah, c'est ça dont il me parlait, Étoile! Merci Nificateur officiel pour le 31e mois d'abonnement. Merci Sugar Graceware pour le 22e mois. J'avais pas vu les subs. Merci Blanquette75 pour le soutien. Merci Noobie1 pour le 37e mois. Merci Loot pour le 14e mois. Et je tiens à m'excuser, j'avais pas vu vos subs. Merci Kenawi pour le 6e mois. Merci Captain Wewi qui a été le premier à sub ce matin. Merci pour le 36e mois d'abonnement. 36 mois de soutien consécutif. C'est beau. Sweet Husky à l'instant, merci pour le prime. Merci à toi. Ah oui, Adèle Andy, super chaîne, ouais. Ah non, Scarview. Ah non, quand je dis, je commence à stresser sur le donation goal, on va en parler. Ouais, non, mais il y a un monde où si jamais ça arrive, je suis coincé, quoi. Ouais. Tu as fait une commande d'ailleurs avec Nightbot. Sur quoi, Camille, Camille, sur quoi? Une commande sur quoi? Tu parlais du The Event? Si vous tapez point d'exclamation DG dans le chat, comme donation goals, DG. Pas BG, hein, DG, même s'il y a du BG dans ce studio, vous avez accès à mes donation goals, le tweet avec le visuel. Ouais, c'est ça dont tu parlais, Camille, sinon n'hésite pas à me dire. Pour le studio, ah oui, peut-être. Ah ouais, pour le studio. Ah ouais, on peut faire ça, ouais. Ouais. Mais il y en a peut-être une, non? Il n'y a plus? La commande studio, elle marche plus? Je crois que j'avais dû en créer une, non? Vous allez voir? Allez, on a le temps, hein, de toute façon. On est ensemble jusqu'à midi, là. Nightbot. Alors, vous m'excusez, tout prend un peu plus de temps ici, parce que c'est pas du tout mon setup, c'est pas mon PC, c'est pas mes réglages et tout, voilà. Mais c'est pas mal. Hop, j'ai essayé de... Non, je croyais que j'avais créé un petit lien pour... J'avais pas créé un petit lien pour le studio, justement? On va aller voir ça. Non. Bon, on va le faire, on va le faire. Il n'y a pas studio, bon, on va le faire tout de suite, hein, en direct, les amis. Regardez. On va faire commande, custom. Laisse tomber l'informaticien, c'est parti. On prend le clavier. Alors, c'est un clavier, il y a 1 milliard de touches. J'ai jamais vu un clavier comme ça. Théma, il y a un clavier. C'est pas un clavier. C'est pas un mini clavier, c'est un maxi clavier. Il y a des touches. Il y a un bloc alpha machin, numérique, je sais pas quoi là. Puis il y a d'autres touches à gauche, des raccourcis, des machins. C'est waouh. Donc du coup, j'appuie n'importe où. C'est un enfer. J'ai que 10 doigts moi. Hein. Alors, on va créer une petite commande qu'on va appeler studio. Point d'exclamation studio. Voilà. Hop. Studio. Voilà. Merde. Vraiment, ce clavier, j'ai pas d'habitude. Je ne suis pas dans mon studio habituel, virgule, mais dans celui qui, deux fois par mois, me permettra. Attends, je fais un roman, hein. J'adore. Donc le mec d'enchaîner avec mon émission MVP. MVP à 12h. Pas mal ça, vous en pensez quoi? Je ne suis pas dans mon studio habituel, mais dans celui qui, deux fois par mois, me permettra d'enchaîner avec mon émission MVP. Ah, j'ai mis 13 heures. Ah, 12 heures. Attendez, je l'ai pas encore validé. Hop. Alors les amis, si vous tapez point d'exclamation studio maintenant dans le chat, vous l'avez. Voilà. Merci Frisketosaur pour le 13e mois. J'économise pour lancer ta candidature présidentielle. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez avec ça. Merci Rocky Sifredo, comment vas-tu? Pour le 19e mois. Merci Babadit pour le 34e mois. Ça marche studio, ça y est, vous l'avez? Voilà, vous l'avez. Il y a un petit cooldown hein, si vous êtes 15 à le faire, mais voilà. Je ne suis pas dans mon studio habituel, mais dans celui qui, deux fois par mois, me permettra d'enchaîner avec mon émission MVP à 12h. Ça marche trop bien, ouais. Le sujet de l'émission MVP, je vais vous raconter ça. Alors, MVP. MVP, c'est une émission je veux dire, c'est un travail d'équipe, hein, qu'on a pensé pendant un an. C'est-à-dire que la première réflexion, elle a été lancée vraiment il y a un an, à la rentrée 2023. Voilà. Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas une émission à inventer sur Twitch pour parler du monde du travail? Je dis ok, d'accord, mais alors comment, c'est-à-dire, quel est le projet? Parce que c'est notre projet! Donc, ça veut dire quoi, une émission sur le monde du travail? Et on a discuté, on s'est affiné, et en fait, on est parti d'un constat qu'aujourd'hui, il y a un déficit d'infos pour les jeunes, mais pas seulement d'ailleurs, aussi pour les adultes, sur le monde du travail, sur les métiers, sur les secteurs. Qu'est-ce qu'il y a comme métier? Qu'est-ce qu'il y a comme secteur? Quel type de parcours on peut faire? Quelles études il faut suivre pour faire telle ou telle chose? Voilà. Et en fait, moi, naïvement, je pensais que les choses avaient évolué en 30 ans. Moi, quand je me suis posé ces questions, quand j'étais jeune et que je devais réfléchir à mon avenir, il y a 30 ans, j'étais un peu désemparé. Il y avait plein de trucs, je ne savais pas que ça existait, quoi. Voilà. Et à l'époque, je me dis, ben, c'est mal fait, on n'est pas très, très bien informé sur les études, les formations, les secteurs, les métiers, quoi. Surtout quand tu es jeune et tout. Alors, pour les gens qui ont du réseau, des familles tu vois, très bien informées, bon ben ça va. Puis pour les autres, la grande majorité, c'est un peu compliqué, quoi. Puis ça crée aussi une inégalité d'ailleurs. Et donc moi, naïvement, je pensais que ça avait évolué, ça, qu'en 30 ans, on avait vachement amélioré tout ça. Voilà, il y a Lily Plu qui dit que c'était pareil à mon époque, et en effet, c'est toujours le cas. Et moi, ce que j'ai découvert en discutant avec vous sur Twitch depuis 4 ans au quotidien, c'est qu'en fait, non. Bah, ça n'avait pas tellement progressé et qu'aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui cherchaient leur voix tout simplement parce que ils n'avaient pas connaissance de ces voix. Voilà. Et là, on s'est dit, eh ben, on va créer une émission. Donc, qui va être bimensuelle, parce qu'elle est assez lourde à penser, à écrire, à produire. Deux fois par mois, une émission MVP, ma vie pro. Alors, clin d'œil au monde du sport, du basket, la NBA, mais aussi du jeu vidéo MVP. J'aime bien ce titre. Ma vie pro, qui va passer en revue les secteurs d'activité, les jobs, les emplois, les formations, les orientations, les réorientations pour éventuellement donner des idées à ceux qui nous regardent. Voilà, éventuellement, voilà. Le pitch, c'est on va explorer les voix pro, pour que les gens puissent trouver leur voix. Vous voyez? Il y en a qui dit j'ai 30 piges, je suis complètement perdu, je déteste ce que je fais, c'est si compliqué. Bah voilà. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas une émission qui est réservée aux jeunes, quoi. Alors évidemment, c'est une émission, à mon avis, idéale pour les lycéens, les collégiens, les étudiants. Mais pour moi, c'est aussi une émission qui s'adresse aux gens qui sont déjà dans la vie active et qui sont pas forcément satisfaits de ce qu'ils font. Voilà. Donc comment on va... Alors, moi, le pitch me plaît bien. On va explorer les voies professionnelles pour que chacun puisse éventuellement trouver la sienne. Je dis bien éventuellement, hein. Avec un thème à chaque émission, différent. À la fin de l'année, on va avoir une collection d'émissions comme ça qui vont aborder différents thèmes. Aujourd'hui, le premier thème, par exemple, à midi, ce sera le bonheur au travail. Enfin, plus précisément, le métier passion. Est-ce que les métiers passion, ça existe? Alors, la réponse est oui, évidemment. Il y a des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Est-ce que les métiers passion, ça existe? Quels sont ces métiers passion? À mon avis, n'importe quel métier peut être un métier passion, en fait. Une adéquation à trouver entre une personne et un métier. Est-ce qu'on doit tous trouver un métier passion? Est-ce qu'on doit tous trouver un métier passion? Est-ce que le travail doit être une passion? Et moi, ma réponse est pas forcément. Moi, mon métier, c'est une passion. Mais je pense qu'on peut être extrêmement heureux, épanoui, voilà, en ayant un travail qui n'est pas un travail passion, qui est un travail alimentaire, on va dire, mais OK à faire, quoi, dans de bonnes conditions quand même, bien sûr, et qui permet de vivre une vie très épanouie, une vie amicale, associative, familiale, etc. quoi. Tu as déjà répondu à toutes les questions auxquelles devrait répondre l'émission. Non, là, ça, c'est mon avis, ça. Mais justement, je ne suis pas tout seul. Voilà. Vous serez avec moi, vous me donnerez votre avis tout à l'heure. Et puis, il y aura, attention, parce qu'on a mis on a mis des moyens un petit peu dans cette émission, on a mis trois chroniqueurs qui vont, bah, avec des chroniques, éclairer le sujet, aujourd'hui, donc le métier passion, et trois invités qui sont concernés par le thème, donc plutôt des gens qui vivent une passion. Donc il y a un invité, on va dire l'invité vraiment qui illustre le métier passion. Donc, c'est quelqu'un qui, vous verrez, qui est dans le domaine des tendances, de la mode, sur notamment sur Internet, mais pas seulement, ouais, qui est passionnée par ce qu'elle fait. C'est une jeune femme. Donc ça, c'est l'invité, le premier invité. On a un invité mystère qui fait un métier passion pour le coup, mais qu'il faudra deviner. C'est vous qui devrez le deviner. Il va venir en plateau et vous pourrez lui poser des questions. Et voilà, parce qu'en général, c'est un métier un peu original ou insolite. Donc deuxième invité, invité mystère. Et le troisième invité, c'est un peu le grand témoin. Voilà, c'est le grand entretien. C'est à la fin. Voilà. Et l'émission dure à peu près 1h30, 2h. Et à la fin, on fait un mini break de 2 minutes. Et il y a un invité qui nous rejoint. Les chroniqueurs s'en vont. Et là, on prend le temps. On prend 20 minutes, une demi-heure pour échanger avec quelqu'un qui a eu un parcours qui peut être inspirant. Hein, quelqu'un qui est heureux de ce qu'il fait aujourd'hui, qui a réussi des choses, qui a sans doute échoué sur des choses aussi, d'ailleurs, parce que l'échec est important, et qui vient raconter un petit peu comment il ou elle a trouvé sa voie. Et voilà, aujourd'hui, c'est Enjoy Phoenix, par exemple, la créatrice de contenu, la youtubeuse, qui sera notre invitée pour le grand entretien de la fin. Voilà. Voilà, donc, trois chroniqueurs, trois invités, un thème, et chaque émission, et ça c'est important, on changera de thème. Voilà, on parlera de, je sais pas, des conséquences de l'IA sur le monde du travail. On parlera du fait de travailler à l'étranger, par exemple. Voilà. Et je me dis qu'à chaque fois, entre les invités et les chroniqueurs, eh ben, ça va éclairer ces sujets. Et je pense que ça va faire une jolie collection. Parce qu'après, bien sûr, ce live, il va connaître une deuxième vie sur YouTube. Voilà, y a des déclinaisons aussi sur tous les réseaux. Voilà, MVP, c'est aussi un média global. Donc là, il y a mon live, mais vous verrez, il y a des pastilles, des trucs hyper sympas. Sur TikTok, sur Insta, sur Twitter, sur LinkedIn, même sur Facebook. Voilà. Donc, plein de choses comme ça. Voilà. Maintenant, vous comprenez pourquoi ça nous a pris un an. Voilà. Est-ce que vous pouvez souhaiter un bonjour à Estelle, ma femme? C'est seulement sa 8e fois dans le chat. Salut Clément, bonjour à Estelle. 42 ans, pleinement épanoui dans mon travail auto-entrepreneur. Je suis formateur en cybersécurité, métier passion, avec un parcours atypique, aucun diplôme après le hack éthique d'une société. Je travaillais pour cette entreprise en tant que développeur RD pendant 8 ans. C'est génial. C'est incroyable. Voilà. Ce qui est fou, c'est que je ne m'y attendais pas du tout. Depuis l'annonce de l'émission, on a reçu des dizaines, je sais pas, peut-être 50, 70 messages de gens qui disent « Ah, est-ce que je peux témoigner ?» Moi, j'aimerais bien parler de mon métier, de mon secteur, de mon parcours. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, pour l'instant, on n'a pas trop parlé de l'émission. Je n'ai pas trouvé le temps encore de répondre aux gens. Il y a trop de messages. Mais on va faire suivre à tous ces mails, tous ces messages, tous ces DM à l'équipe de MVP pour avoir de nouvelles idées d'émission et éventuellement inviter des gens qui nous écrivent. Waouh. Merci Mirette pour le 22e mois. Merci Melissa Queen pour les beats. Comment va ma reine? J'espère que tu vas bien, je t'envoie de la force. Damos Etech, j'ai vu ton abonnement à la commu tout à l'heure. Little Yoko, merci pour le 2e mois. Anonyme31, merci pour le 31e mois. Polar, merci pour les beats. Damos Etech pour les beats aussi, vous êtes formidables. Ça coûte combien une émission comme ça, si tu peux le dire? Je sais pas, j'ai aucune idée. Diesel. Alors là, pour le coup, c'est une grosse équipe. Hein, vous imaginez bien que je n'ai pas monté cette émission toute seule. C'est un énorme travail. Et donc, je n'ai aucune idée de son coût et je ne veux pas le savoir. Je pense que ça me ferait peur. J'ai été avocat pendant 9 ans, j'ai tout plaqué. Ma première rencontre avec Pôle emploi a été une cata. On m'a méprisé, on ne m'a pas aidé. J'ai dû me débrouiller seul à 35 ans, pas simple. Jacques, 84. Ça, c'est le genre de questions qu'on va pouvoir évoquer aussi. Hein. Combien de chroniqueurs? 3. Ouais. Hélène ne veut pas le savoir non plus. Je n'ai aucune idée du prix de cette émission. Si Fulu, comment elle se finance cette émission? Pour l'instant, elle ne se finance pas. Hein, vous aurez remarqué que cette première émission n'est pas sponsorisée. Donc, c'est full dépense. Et non, blague à part. Il y a 3 chroniqueurs, 3 invités. un joli studio, un décor qu'on a créé, une équipe technique, un réalisateur, un ingé son, enfin voilà, vraiment une grosse équipe. Donc évidemment, tout ça a un coût, il faut payer les gens. Donc dès la deuxième émission, je pense que cette émission sera sponsorisée. J'espère. On va avoir un problème pour que des marques, des entreprises puissent nous payer le coût de cette émission, quoi. D'où les subs. Ah ouais, non, les subs, ça va pas suffire. Non, ça va pas. Non. Les subs, ça... Merci pour les subs. Hein. Mais non, c'est là merci pour les soutiens, mais non, c'est une émission dont les subs vont pas suffire là. Donc là, on a besoin de marques, quoi. Tu penses que vous pourriez faire une émission sur les métiers de l'air, bien sûr, Cyril Lisca. Ouais. J'adore les témoignages. 32 ans, père de famille, je me suis lancé dans une nouvelle activité qui est indépendante, rémunérée au résultat depuis 1 an et demi. C'est une belle aventure, ça, c'est chaud. Je n'arrive pas encore à me rémunérer avec tout qui augmente. Je me pose de réelles questions pour continuer ou non, reprendre une activité salariée. Ça, c'est un... Tiens, ça pourrait être une thématique d'émission, ça. Hein? Salariat ou indépendance? Ouais, profession libérale. Ouais. Ça, c'est un vrai truc, ça. J'ai 27 ans, ingénieur, me dit Zara Kimar. J'ai fait un burn-out. L'environnement de travail était mauvais. Manager, pas compétent. Ce que j'ai appris, il faut savoir prendre soin de soi, apprendre et écouter son corps. Alors moi, je suis tellement d'accord avec ça. Hein. Le travail, ça doit pas être un enfer. Le travail, c'est quelque chose qui doit aider à s'accomplir, à se développer. Voilà, et il faut le faire dans de bonnes conditions. Et pour moi, c'est une thématique importante. J'espère qu'on aura l'occasion de l'aborder souvent dans cette émission. Très intéressant, je me pose beaucoup la question perso en ce moment, salarié ou indé, donc tu vois. Ben moi, c'est une question que je me pose. Hein. Moi, je suis salarié d'un côté par France Télévisions, j'ai une vie de salarié derrière moi, 30 ans, voilà, dans la télé et la radio. Et puis depuis 4 ans, je suis créateur de contenu, donc indépendant, j'ai les deux statuts. Et peut-être qu'un jour, je pourrais basculer que de l'un ou de l'autre. Donc cette question, je peux être amené à me la poser aussi, quoi. Ouais. Je suis infirmier, me dit Kenaoui. J'ai quitté l'hôpital au bout de 6 mois, connu nombre de mes confrères et consoeurs. Comme nombre, pardon, de mes confrères et consoeurs, une thématique sur la santé peut être intéressante. Ouais. Bah ouais, carrément. Carrément. Je pense que ce n'est pas les thématiques qui vont nous manquer. Après, nous, on réfléchit vraiment à trouver les thématiques qui peuvent vous intéresser le plus, quoi. Format podcast, oui, ça nous a été beaucoup demandé des Foucous. Donc, j'ai remonté cette information et l'équipe est en train de travailler dessus. MVP, c'est ma vie pro. Alors, ma vie pro. C'est aussi quand je joue à n'importe quel jeu, en général, les gens disent que je suis un peu MVP parce que je suis souvent MVP de ma game. Je suis assez bon. Vous connaissez mon talent, mon gameplay, notamment sur Valorant, quoi. Ah, c'est passionnant. Ah, ben là, putain, et cette émission Joévin ou Joévin, on l'a créée pour toi. Et tu écris professeur des écoles en Île-de-France. Bravo, c'est un métier magnifique. Ça fait 10 ans que je souhaite rentrer en Bretagne. Mais il n'y a aucun moyen car les mutations sont quasiment impossibles vers la Bretagne. Il y a peut-être trop de demandes vers la Bretagne, c'est ça? J'ai décidé que cette année était la dernière ici, donc retour en Bretagne. La question est, pour faire quoi? Ben, pour le coup, cette émission, elle peut peut-être, je l'espère, t'apporter des réponses, quoi. Alors après, à chaque émission, on n'abordera qu'un thème, quoi. Mais au fil des émissions, je pense qu'on va peut-être apporter des réponses à plein de gens. C'est intéressant ce que dit les vies de Mélie. Les concours de la fonction publique sont peu mis en avant. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, ouais. Ouais. Alors qu'ils sont vraiment une solution pour certains profils. Ouais. Pareil, je suis dev. Ma boîte ferme d'ici 1 an, me dit Tenchi. J'hésite entre re-salarié ou indé, quoi. C'est fou, hein? Tommy du 30, j'ai 30 ans, je suis chercheur en chimie médicinale. J'ai été obligé de me relocaliser à l'étranger pour trouver du travail, car le secteur de la recherche est très compliqué en France, ça je le sais, alors que je suis amoureux de la France. C'est vachement intéressant. Ah bah oui! Il y a Jung qui dit, est-ce que vous allez faire participer des acteurs du métier concernés par émission? Bah oui, du métier, du secteur, hein, ou de la thématique. Si oui, comment peut-on participer pour échanger sur son métier? Bah, vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages, des DM. Avec vos coordonnées, moi je vais faire suivre à l'équipe, quoi. Après, je ne vous cache pas qu'on reçoit alors que l'émission n'a pas commencé, hein, c'est la première aujourd'hui à 12h. On reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Je m'attendais pas du tout à ça, d'ailleurs. Ah, merci. Oh là là, Wasp, je suis prof à la fac et les étudiants sont souvent perdus. Je pense leur recommander ton émission. Trop bien. Trop bien. Oh oui, rediff YouTube, bien sûr. Ce sera, ouais. Merci, Aurix. Bon. Oh, il est déjà 9h30. Bon, on va peut-être commencer cette revue de presse. Vous pensez quoi? Voilà. Juste un mot, peut-être, du The Event. Parce que là, c'est une journée chargée. Parce que du coup, donc là, la revue de presse, MVP ensuite. Et puis après, je vais enregistrer des petites pastilles, des petites chroniques pour MVP, pour les réseaux. Puis après, il y a une petite soirée de lancement ce soir. Je vous raconte tout pour sur MVP. Voilà, je vais pas me coucher tard parce que j'ai du travail. Et demain, alors demain matin, qu'est-ce que je fais demain matin? Qu'est-ce que je fais demain matin? Je prépare le. Normalement, vous le savez. Je prépare le. Non, non, je fais pas caca, non. Non. La préparation pour Montpellier. Merci Nico Manga. Eh ouais, je prépare le setup. Alors le setup, il est prêt, hein. J'ai tout le matos. Pour ceux qui m'ont suivi un petit peu cet été, mon setup de Corse sera mon setup de Montpellier, hein, puisque c'est un setup qui est fait pour voyager avec un PC portable. Alors ça, je pense que ça va surprendre un petit peu certains à Montpellier. Moi, je vais streamer avec un PC portable, un PC suffisamment puissant pour faire tourner à peu près tout ce que je veux. Il a tourné 3 semaines en Corse, il faisait super chaud, il n'y avait pas de clim, il m'a fait tourner tous les jeux que je voulais. Il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas à Montpellier. Donc PC portable, écran portable, mais grand et de bonne qualité. La petite console de son qui va bien, le micro habituel, la même caméra que d'habitude. Voilà. Donc, voilà. Demain le setup, demain matin le setup. Oui, j'irai au concert, a priori, t'as eu l'aide demain soir. Arrivé en début d'après-midi avec plein d'autres streamers et streameuses de la région parisienne, on prend tous le même train, c'est trop chou. Je pense que tu ne seras pas le seul, il est possible que ce soit le cas pour Trivia. Trivia aussi, elle aura un PC portable? Tu as un PC mis à disposition aux events, de toute façon. Non, pas du tout, donc Ludostick. Chacun apporte son PC. Non. Tu peux louer un PC à une société spécialisée sur place, comme pour la ZLAN, mais le Z-Event ne te fournit pas un PC. Ils fournissent suffisamment de choses déjà. Hein. Ils te fournissent Internet, ils te fournissent l'électricité. Voilà. Donc, mais moi, comme mon PC portable. Mon PC portable a bien tourné en juillet, ben voilà, j'amène mon setup. Voilà. Et je me demande si demain. Zera l'a dit hier, PC mais pas matos son. Ah ben non, non, je peux vous confirmer qu'il n'y a pas de. Ah non, je peux vous dire qu'il n'y a pas de PC fourni par Roland, il n'y a pas de PC fourni par les organisateurs. Tu peux le louer à une société, mais il n'y a pas de PC fourni. Faut amener ton setup. Et non, Joe est pas dans la valise, j'y vais tout seul. Parce que pour des raisons d'organisation, ils veulent qu'il n'y ait que les streamers, vraiment que les streamers à Montpellier, et qu'il n'y ait pas 6 000 personnes, et donc on n'a pas le droit aux accompagnants, donc je serai tout seul. Bon, bah comme le plus souvent, hein, quand j'ai pas emmené Joe en vacances en Corse non plus, et on a streamé, quoi. Voilà. Même si j'aurais beaucoup aimé l'emmener, j'en ai même fait la demande, parce que je savais que ça lui aurait plu, mais c'était pas possible. Il a dit que s'il y avait un problème, on pouvait prêter un PC, mais pas pour le son. Ah bah oui, peut-être qu'il y a peut-être un ou deux PC de secours. Ouais. De toute façon, il y a une société sur place géniale avec un mec formidable qui peut louer du matos, quoi. Voilà. PA aussi va être seul. Bah normalement, Phantom Requiem, ouais. Ouais. Et je me demande si demain matin, je vais pas faire un petit stream de de valise. Voilà, un petit stream de préparation de setup. Genre, je lance un stream sur mon téléphone portable dans mon petit studio et on fait la valise du setup ensemble pour rien oublier. Comme ça, on pourrait t'aider si t'as pas oublié un truc, Nico, exactement. Ça pourrait être marrant. Parce que j'ai pensé à faire une revue de presse demain matin, mais ça va être chaud parce qu'il faut, j'ai pas fait ma valise. Et puis le TGV part vers 14h, je crois, donc c'est impossible. Là où je suis ennuyé, j'espère que le nom du Premier ministre ou de la Première ministre va pas tomber aujourd'hui. Parce que là, je serais très, très, très embêté. Parce que là, il faudra faire une revue de presse. Donc là, je me débrouillerai. Si je vois que le nom du Premier ministre tombe aujourd'hui, bah, ce soir, j'entrerai pas tard à la maison. Je ferai le setup ce soir, malgré la journée chargée, pour faire une revue de presse demain matin. Obligé. Obligé. Et peut-être même que j'essaierai de lancer un stream à l'arrache. Ça va pas être possible, ça. Le jeudi soir. Non, normalement, c'est impossible parce que ça commence vendredi matin. Mon setup sera installé sur le site du The Event. Je pense que j'aurai pas le droit. Donc je suis cette info. Voilà. Si le nom tombe demain matin, tu pourras faire ta revue de presse depuis le train. Ça va être compliqué quand même. Hein. Ah ouais, demain matin, c'est le pire. Mais si ça tombe aujourd'hui, je peux vous faire une revue de presse demain matin. Là, elle sera essentielle. Merci Nilus pour le 22e mois. Café, Chris Prolls, revue de presse. Le bonheur. Siraxou, merci pour le Prime. Merci Skiou pour le soutien. Merci KVS2 pour le 2e mois. Merci Etocello pour le 37e mois. 37e mois. 37 mois. Merci Petrusios pour le 29e mois. Merci encore Mirette. Ouais, The Event débute ce week-end. Il y a le concert de lancement jeudi soir. Il y a encore des places d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux du The Event. Je crois qu'il y a encore des places pour le concert. Vous pourrez y rencontrer bah, tous vos streamers et vos streameuses préférés. Et puis ça commence bah, vendredi matin. J'ai aucune idée de l'heure. Hein. Est-ce que quelqu'un. Parce que les gens qui ont écouté Zera hier, moi j'ai pas pu moi. Ça commence à quelle heure vendredi? Ça m'intéresse. Morgan, qui utilise ce chat pour la première fois, dit pourquoi vous voulez faire un truc suite à cette nomination qui est l'intérêt? Une nomination du Premier ministre. Pour rien, Morgan, comme ça. Ouais, sur cette chaîne, accessoirement, il y a des gens qui suivent un peu l'actualité, qui s'intéressent un petit peu. Ouais, quelle politique demain pour notre pays? Quelles mesures? Quelles réformes? Voilà, est-ce qu'on va tenir compte du vote des Français qui sont déplacés par millions pour voter aux législatives? Ou est-ce qu'on s'en bat, est-ce qu'on s'en carre le cul, tu vois? Un truc comme ça. Comme ça, tu vois? C'est 18h! Mais je vais foutre quoi vendredi, moi? Ah, alors c'est-à-dire que le setup, on installe vendredi, en fait? C'est-à-dire que je vais pas streamer jeudi? Je vais pas streamer vendredi de la journée? Mais ça va me gratter! Mais alors, on stream que vendredi soir, samedi et dimanche? Donc c'est 2 jours et une soirée. Ah, j'avais pas l'info. Ah merde. Ah, il nous briefe le vendredi après-midi. Donc ça veut dire quoi? Vendredi matin, installation du setup. Bah comme d'hab, bah je l'ai jamais fait, le The Event, la réunion. Tu l'as fait, toi? D'accord. Donc, setup vendredi matin, explication vendredi après-midi. D'accord. Tu vas stream pendant 5 heures d'affilée, ça va être physique, t'inquiète. Non, c'est interdit, Stitax. On n'a pas le droit de streamer non-stop, c'est interdit par Zera. Trop haut la cam? Non, non, c'est pas la cam qui est trop haute, c'est moi qui suis trop petit. Ok. D'accord, ok. Mais du coup, je peux. Ah ouais. Donc, il y a un. Donc, ça veut dire que. Je vais réfléchir tout seul. Si on a quartier libre vendredi matin et qu'on fait pas le setup le vendredi matin, je peux streamer depuis ma chambre d'hôtel? Pensez? Il prévoit de la pluie apparemment, donc les lives IRL, ça semble compromis. Bah, les 2 fois où je suis allé à Montpellier pour le The Event en tant qu'invité, bah, il pleuvait, ouais. Je crois que c'est un moment de l'année où il pleut pas mal dans la région. À chaque fois, j'ai eu des trompes d'eau, quoi. Ok. J'espère qu'il y a la fibre à l'hôtel. Oh, genre un petit boîtier 4G qui pourra faire l'affaire. Ok. Non, la poussette de stream, je ne peux pas l'emmener, c'est trop lourd. Ok. Ah, c'est ça, des épisodes Cévenol, c'est ça. Des annonces de la grosse pluie. Ouais, bah c'est ça. Moi, je suis allé à Montpellier il n'y a pas longtemps, là, en préparation de Time Out. Noté le 12 septembre, 20h, Time Out, le retour de mon grand jeu vidéo de culture générale. Là. Ça va être sympa. Avec trois viewers, trois streamers et trois viewers de Montpellier. Donc, je suis allé il n'y a pas longtemps et on a eu une météo incroyable. Il faisait superbe. La ville était superbe. La ville était superbe. La météo était incroyable. Voilà. Mais là, effectivement, à chaque fois que je passe aux The Event, il pleut. Ok. Trop bien. Bon, bah, les amis. Zera choisit exprès les week-ends où il pleut pour vous garder à l'intérieur. Bon, on a parlé. Bougez pas, je vais allumer un truc. On a parlé de MVP qui commence à 12h. On a parlé du The Event. Ah si, si, un dernier truc sur le The Event quand même, pardon. Et après, on va attaquer la revue de presse. Je commence à flipper sur l'histoire de la présidentielle. Il y a Nuno124 qui vient de sub et qui dit: est-ce qu'il y a un Google Doc qui recense les futurs mécènes en vue de l'élection présidentielle de Samuel 2027? Juste savoir si je dois donner gros sur cette cagnotte ou non. Pour rire, parce que c'était impossible, j'ai mis un donation goal à 1 million d'euros. Comme quoi, si ce donation goal était atteint, je me présenterais à la présidentielle. Voilà. Moi, je suis allé voir, j'ai pas fait ça par hasard. Je suis allé voir tous les donation goals des streamers ces dernières années. J'ai vu qu'en gros, déjà quand t'approchais 75-100 000 euros, c'était des collègues de fous, quoi. Même si certains ont fait encore plus, quoi. Des 500 000 euros et plus. Voilà. Mais en gros, déjà approcher des 100 000 euros, c'est insane, quoi. Donc je me suis dit ça, je me suis dit en gros, ben voilà, si j'arrive à me rapprocher des 100 000, je serais très heureux et très fier, quoi. Donc voilà, après, évidemment, j'ai créé des donation goals au-delà pour faire marrer un peu. Et j'en ai créé un million qui n'avait pas de sens. Un million d'euros de collecte sur ma cagnotte. Je me présente à la présidentielle. Voilà. Et sauf que ça fait marrer tout le monde. Mais marrer en mode, tiens, ce serait drôle quand même. Voilà. Et en fait, il y a des gens qui me font flipper. Je pense que ça ne va pas arriver, mais en mode sur les réseaux, mais Samuel, tu ne te rends pas compte de la puissance d'Internet. Tu ne nous connais pas, hein, comme dit Mrs. Series Addict dans le chat. Les gens que ça fait rire. Et je serais bien dans la merde. Parce qu'en fait, moi, je vais toujours au bout des choses. J'ai plein de défauts, mais je tiens mes promesses, je tiens mes engagements. Je pense que c'est important dans une vie, dans un parcours. Et en plus, je suis têtu. Il suffit de me voir jouer à Elden Ring, quoi. Et donc, si on atteint ce million d'euros, je le fais. Et là, je ne maîtrise plus rien. Ah, bah, j'en ai parlé avec Hélène. Il y a Urchin qui dit la conversation avec Hélène quand tu devras lui annoncer que tu te présentes. J'ai commencé à lui en parler. Je lui ai dit, écoute, il y a un monde, ça n'arrivera pas. Je lui ai dit, il n'y a aucune chance que ça arrive. Mais il y a un monde où on ne sait pas. Voilà. Alors, elle est tellement parfaite que elle m'accompagnerait même dans ce délire. Mais de toute façon, elle sait depuis longtemps que je suis complètement fou. Mais le pire, c'est que je le ferai, quoi. Je le ferai. Et j'irai chercher les 500 signatures. Et j'irai chercher les 500 signatures. Je dirais pas que je les trouverai, mais je ferai les démarches, tout, quoi. Je ferai le truc sérieusement, quoi. Oh, le bordel. Et comment je fais par rapport à mon travail, par rapport à tout ça. Donc là, ça commence à me. Voilà. Bon, je pense que dimanche soir, on sera un peu soulagé par rapport à cette histoire, quoi. Voilà. Alors après, imaginons un instant. Imaginons, on arrive à 1 million. OK. Du coup, je le fais. Après, il y a deux pistes. Ou je le fais en mode troll. Hein, en mode foufou. Enfin, je déconne. Je le fais, mais bon, voilà, avec les bêtises habituelles sur voilà, vos idées sont les miennes. Enfin, voilà, voilà. Avec voilà, le truc le plus populiste, slash décalé, même s'il y a quelques débiles sur les réseaux qui prendront tout au premier degré. Donc, on fait un truc de troll, quoi. Hein. Comme tous les présidents dit Delinium. Ou alors, je le fais sérieusement. C'est-à-dire, je rencontre des gens, j'essaie d'élaborer un programme, je songe à la composition de mon gouvernement. Parce que des idées sur la manière dont notre pays devrait être mené, bah j'en ai en vrai, comme tout citoyen, quoi. Voilà. Donc là, il faudra choisir. Je ferai un sondage, je vous demanderai, c'est vous qui déciderez. Merci Pierre-Yves pour le 29e mois. Merci Nono124 pour le 22e mois. Merci Duxoussou7 pour le 10e mois. Je sais pas si j'ai remercié déjà Nilus, Siraxou, Skiu, mais dans le doute, je le refais. Voilà. Bon. On fera beaucoup, voilà. On fera beaucoup de sondages sur Twitch pour essayer d'élaborer tout ça. Bon. Rendez-vous dimanche soir. Voilà. Encore une fois, si j'approche des 100 000 euros, 70 000 euros, 100 000 euros, je serai déjà très très fier. Tu peux modifier le goal. Ah non, je modifie rien. C'est fait, c'est parti, c'est lancé. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle! C'est ça qui est drôle. Modifier l'objectif à 2 millions. Bah non, 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 bah non, non. Bah non, bah non, c'est ça qui est drôle. C'est qu'on sait que c'est impossible, mais il y a un monde où c'est possible. C'est ça qui est drôle. Hein? Vous êtes d'accord? Du coup, tu t'encarterais dans un parti politique. Ah bah non, 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 c'est moi le parti, c'est moi le parti. Ah bah non, 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 c'est bon. Ah bah non. Ah bah non, je vais en profiter du coup. Si je suis candidat, je vais faire mon truc, quoi. Il suffit d'un seul mec très riche. Attends, dans quel monde il y a un mec qui met 1 million sur ma cagnotte, quoi? Tu pourras toujours présenter question pour un champion si t'es encarté politiquement. Moi, je serais pas encarté déjà. Je ne serais pas encarté. Je vais aller dans aucun parti, moi. Je vais créer mon mouvement, moi. Je sais pas comment. Comment c'était Macron au début, c'était En Marche. Ben, je veux dire, je sais pas, je vais écrire, je vais créer, comment on pourrait, en agent. Moi, ce sera en agent, moi. Et ça commence à troller, ça commence à troller. Hein? En courant, non, en courant. Non, en courant. Oh. Hein? Oh putain. Et je nomme Léon Marchand Premier ministre. Bam! Personne ne s'y attend. Bon, voilà. Voilà pour la petite actualité de Samuel Etienne. Merci d'être si nombreux. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit sommaire de la revue de presse? Bon, on va parler notamment de politique, mais pas seulement. On va parler de nucléaire, on va parler de jeux paralympiques, on va parler de surréalisme aussi. Est-ce que vous êtes prêts, bande de belles personnes? Est-ce que vous voulez un petit sommaire? Donc c'est l'essentiel de l'actu en 2-3 minutes pour ceux qui ne pourraient pas rester avec nous pendant 2 heures. C'est parti? Allez, let's go! Sachant qu'à 11h50, je mettrai une petite pause pour qu'on aille vers MVP. Vous avez rendez-vous pour la première de MVP à 12h, point d'exclamation. MVP, je pense. Est-ce que j'ai créé. Normalement, j'ai créé un truc, non? J'ai même pas. Si on fait point d'exclamation MVP dans le chat, il se passe un truc ou pas? Je sais plus, j'ai créé un truc. Ah bah oui. Ah mais vous avez quelque chose. Ok. Ok, bon. Alors les amis, je vous fais un petit sommaire quand même, parce qu'il faut bosser un moment. Alors, voilà, j'ai préparé tout un setup. Normalement. Waouh, c'est magique. Là, vous avez tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? On a bien sûr un point sur la situation politique. Hein. On n'a toujours pas de nouveau Premier ministre, de nouvelle Première ministre. Peut-être que ça va tomber ce matin. Ce serait très, très drôle. Pendant ce temps, c'est le constat des journaux ce matin. Eh bien, on a un petit problème en France, c'est que notre déficit se creuse. Pourquoi tout le monde en parle ce matin? Parce que des chiffres ont été communiqués, notamment par Bercy, par le ministère des Finances aux parlementaires. Hein, c'est une obligation, et les chiffres sont pas très très bons. Donc c'est la une du Parisien. Pendant ce temps, le déficit se creuse. Il pourra atteindre 5,6% du PIB, ce qui est beaucoup, en 2024, au lieu des 5,1% envisagés, ce qui était déjà beaucoup. Normalement, dans le cadre européen, on ne devrait pas être au-delà de 3% du PIB, quoi. Sans Premier ministre, sans majorité à l'Assemblée, ce nouveau dérapage rend le vote du budget encore plus périlleux. On est un peu dans le caca, hein, pour vous résumer le truc, quoi. Mission impossible. Voilà, le Parisien estime même que le futur gouvernement sera dans une mission impossible. Voilà. pour élaborer ce nouveau budget avec des décisions forcément impopulaires parce qu'en gros, il faudra réduire les dépenses. Ou pas d'ailleurs, puisque la gauche dit, bah non, vous verrez, on ne va pas du tout réduire les dépenses, on va augmenter les impôts. On va même augmenter les dépenses. On va augmenter les dépenses, on va faire plus de redistribution, on va faire... voilà, et on va augmenter les impôts. Ça, c'est la réponse de la gauche. Y a une lecture finalement très libérale de ce problème de la dette, et y a une lecture, on va dire, progressiste de gauche, en disant, mais il n'y a pas de problème, en fait. C'est pas tant qu'on dépense trop, c'est qu'on n'encaisse plus assez. Vous savez que le président Macron a plutôt baissé les impôts. L'IBM, les jolis titres, ce n'est pas les comptes en banque, ce sont les comptes en branque, puisque les comptes publics sont en déficit. Libération, alors qu'il reste moins d'un mois pour présenter une loi de finances devant le Parlement, l'annonce par le gouvernement démissionnaire d'une probable aggravation du déficit public rajoute à l'urgence de nommer un Premier ministre. Voilà, c'est urgent, sauf qu'on n'y arrive pas. On est dans le flou, plutôt dans le flouze total, Libération toujours en pleine forme. Alors, je vous parlais de solutions, de regard libéral sur cette crise et de regard, on va dire, progressiste ou de gauche sur cette crise. Là, vous avez un journal qui s'appelle Les Échos, qui est un journal qui a plutôt une ligne éditoriale libérale de soutien aux entreprises, plutôt, hein, Les Échos, voilà, qui propose des solutions pour, qui s'offrent au futur exécutif, comprenez au futur gouvernement, pour relancer le déficit. Et ce sont des solutions de réduction des dépenses. Hein, voilà. Comme le dit Blas Cap à l'instant, les déficits budgétaires, c'est un choix politique. Voilà. Le problème peut être résolu en deux secondes sur le papier. Tu n'as pas tort. Voilà. L'humanité n'est pas d'accord avec cette lecture libérale, bien sûr. La bataille du budget, l'humanité qui alerte sur la politique d'austérité, voire d'hyper-austérité qui pourrait venir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Qu'est-ce que vous ferez en tant que président, monsieur Samuel Etienne, pour résoudre le problème de la dette? Putain, ça commence. Ça y est, ça commence. Ça y est, ça commence. Ça y est, on commence à me demander mes mesures. Attendez, on va attendre le million déjà. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'annule la dette. Oh putain, c'est parti. T'imagines, t'imagines le conseiller ministre? Bon, monsieur le président, monsieur Étienne, vous savez que la dette de notre pays... est abyssal, est immense. Quelle est votre solution? J'annule. Il n'y a plus de dette. Ah ben non, si, parce que par rapport aux créanciers, tout ça, les investisseurs institutionnels, l'argent qui nous a été prêté depuis l'étranger, tout ça. J'annule. Ben non, mais c'est pas. Non, parce que ça peut pas. En fait, non. Parce qu'en fait, ça va. Voilà. J'annule. Me cassez pas avec ça et je vais lancer une petite enquête. Vous voyez? Ça va de la gueule. Donc l'humanité n'est pas d'accord avec ça et nous rappelle qu'il y a une autre solution qui est d'augmenter les impôts. L'UMA dit non seulement il ne faut pas réduire la dépense, il faut même augmenter les dépenses et il faut augmenter aussi les impôts. C'est ce que dit aussi un député communiste dans les pages de l'humanité. Alors ça c'est la question du budget. L'autre question évidemment c'est combien de temps allons-nous encore attendre après les élections législatives pour qu'on ait un nouveau gouvernement en France? Je crois que ça fait 50 jours, voilà, sans gouvernement. L'impasse jusqu'à quand, se demande le Parisien. Nomination à Matignon, toujours le même film qui lasse, titre Libération. C'est pas du Cabrel, ça? Et ça continue encore et encore. Que le début, d'accord. Tintin. Toujours le même. Non, c'est pas ça, non? C'est pas une chanson de Cabrel, ça? Attends, je regarde. Toujours le même film qui lasse. Toujours le même. Ça me rappelle un truc. Qui passe? Ouais, mais ils font des jeux de mots, Libé, c'est pour ça. Ouais, ils font des jeux de mots. Qui passe? Alors, Cabrel ou pas Cabrel? Cabrel? C'est ça. On va aller voir sur Internet. Il y a tout sur Internet. Internet, c'est incroyable. Au début, je ne croyais pas Internet, moi. Toujours. Mais c'est fou, hein. On fait des trucs de fou, hein. Bah, par exemple, sur Internet, je vais voir la météo qui fait, par exemple. Toujours le même. C'est très pratique. On peut voir les horaires des films de cinéma. On peut. Certains m'ont dit qu'on pouvait acheter des choses sur Internet. C'est incroyable. Enfin, je n'ose y croire, mais bon, il paraît que oui. Alors. Eh oui. Tout à fait. Théma. Voilà. Encore et encore, Cabrel. Oh, quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. Et oui, c'est vrai. Et oui, c'était vrai. Exactement. Il y a du son là? On veut pas manger des Haribo, ces histoires là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Normalement, j'ai une scène, j'ai fait une scène YouTube, hop. Qu'est-ce que c'est? Téléphone. Encore que le début, d'accord. Putain, j'adore, j'adore. J'aime bien Cabrel, moi. Non. Ok. Donc c'était bien ça. Bravo, vous avez gagné. Excusez-moi. Merci à toi. Ouais. Arrêtez d'envoyer des beats, ça me fait peur par rapport à la cagnotte. Merci Red Floyd pour les beats. Merci Ghost Royal pour le Prime. Merci le Bambi pour le soutien. Ah. Donc, toujours le même film qui passe, titre Libération. Les hésitations de Macron crispent le monde politique. Ouais, du côté de l'opposition, ils commencent à être un petit peu énervés. Ouais. 50 jours que les Français ont voté, il ne se passe rien. Voilà, à quel moment on est dans un déni de démocratie bon, vous connaissez ce débat, on va en reparler ce matin. Alors, on va aussi parler de nucléaire, puisque les échos y reviennent ce matin, hier, mardi 15h54, avec un tout petit retard. Hein. On parle de 50 jours pour les législatives. Là, c'est 12 ans de retard. Flamanville, la nouvelle centrale, hein, l'EPR de Flamanville, a démarré 17 ans de chantier. Énorme retard, énorme dépassement du budget. Mais ça y est, l'EPR est lancé. Alors, il y a une période de chauffe, hein, ça ne s'allume pas comme ça. Hein, c'est pas, t'allumes pas un EPR comme un iPhone, quoi. Donc, mais ça y est, le truc est lancé. Et les échos en parlent, nous expliquent un petit peu pourquoi ça a pris autant de retard, pourquoi c'est une bonne nouvelle, quelque part, en tout cas pour ceux qui soutiennent l'énergie nucléaire. Voilà, le Figaro en parle, le nucléaire français prend un nouvel envol. Voilà, le nucléaire d'EDF repart de plus belle. Titre encore Le Figaro. Voilà, je vous ai mis quelques articles là-dessus pour comprendre un petit peu, puis c'est l'occasion de faire le point un petit peu aussi sur la question du nucléaire en France. Voilà. Pourquoi ils précisent l'heure? Parce qu'à part, je pense que c'est une espèce de blague. En mode 12 ans de retard et tu vois, ils donnent la minute, tu vois. Voilà. Je pense que c'est une espèce de petite vanne. Petite vanne façon écho, tu vois. C'est pas une vanne, c'est pas tu te roules par terre. Tu tapes par terre, tu as le souffle coupé de rire. On peut pas dire que les échos, qui est un journal que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est vraiment plein d'informations. On peut pas dire que les échos soient dans la gaudriole, quoi. Voilà, ils sont fun chez les échos. Oui, bah ça c'est de l'humour. Je pense que c'est un peu un. Je pense que c'est un humour les échos, tu vois. Hein? Alors Tistou qui dit, c'est la petite vanne en mode. Oui, c'est ça. Oui, c'est petite. T'imagines en conférence de rédaction. T'as un mec qui dit bon, il y a quelqu'un qui propose un titre. Alors on va titrer demain, on va faire La centrale de Flamanville démarre. Et puis t'as un mec un peu foufou, tu vois, c'est un peu le punk de la rédaction qui dit attendez, vous savez ce qui serait dingue? C'est comme le truc à 12 ans de retard, on pourrait faire un titre mardi 15h54. Tu vois, être super précis à la minute près, alors que le truc il a 12 ans de retard. Et là les gens le regardent, ils disent mais t'es dingue, mais t'es fou, mais t'es un malade. Mais t'es un maboule! Voilà. Et ça rigole un peu, tu vois, un peu. Ah, mais quand même, elle est bonne, tu vois. Le ouf! Et puis, ils l'ont pris, tu vois. Là, ils ont craqué le slip. Merci, Foxiter8, pour le soutien. Voilà, donc, on parlera de ça, du nucléaire. Tiens, Fala! Mais oui, c'est ça. ce qui est Fala aussi, c'est le succès des Jeux Paralympiques. Merci, Math74 pour le Prime. Ça marche très, très bien. Voilà. Moi, je me réjouis parce que c'est une façon de mettre le handicap, l'inclusion dans la lumière, en espérant, bien sûr, que ça dure au-delà des Jeux paralympiques. Mais voilà, les bonnes nouvelles dans l'actualité ne sont pas si nombreuses. Donc, voilà, félicitons-nous de ce succès des Jeux paralympiques. Moi, j'ai eu l'occasion de m'y rendre parce que je trouvais ça important. Tous gaga des paras. Titre, Le Parisien ce matin et Libération, sous la plume de Jonathan Boucher-Petersen, dit justement, c'est un point d'appui, mais ce n'est pas un aboutissement. Il faut que ces Jeux paralympiques servent à mettre en lumière le handicap et l'inclusion, et qu'on en ait plus conscience et qu'on fasse plus de choses dans un pays comme la France. Et je suis un milliard de fois d'accord avec ça. Et puis un petit plaisir, je vous parle pas souvent d'art. Bon, là, il y a une poitrine dans ce dossier de La Croix sur le surréalisme. J'espère que la modération de Twitch a mis un petit peu des neurones dans leur logiciel, là. Parce que c'est une représentation de la nudité. Non, pas le ban, t'inquiète. T'inquiète, maintenant ils ont compris des soucis au début, là, il y a 4 ans. Mais voilà, voilà, le message est passé. Normalement, le Twitch a compris que la représentation artistique de la nudité n'était pas de la nudité. Voilà. Je l'ai testé notamment en faisant des streams dans des musées, hein, ces dernières années, où la représentation de la nudité était en peinture, était en sculpture. Et c'est... Je suis resté notamment un bon quart d'heure exprès devant l'origine du monde, hein, le célèbre tableau au musée d'Orsay, pour tester à un moment l'évolution, l'intelligence de la modération de Twitch sur ce sujet. Je pense que si on peut ne pas être ban avec un quart d'heure de l'origine du monde en gros plan sur ma chaîne, je pense que ce petit tableau de La Croix va passer crème. Voilà. Alors, à 2 jours du The Event, voilà. Après, si Twitch veut me ban à 2 jours du The Event pour un tableau dans un dossier de La Croix sur l'histoire du surréalisme, je pense que ce n'est pas à moi qu'ils vont faire du mal. Pour le coup, je pense que ce n'est pas à moi qu'ils vont faire du mal. Hein. Donc, je pense que non. Moi, je fais appel à l'intelligence humaine, à un moment. Hein. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Moi, je fais appel à l'intelligence humaine. Merci Yanis Léris pour le 14e mois. Merci Yann. Normalement, il faut faire confiance à l'intelligence humaine. Sinon, on s'auto-censure et on passe à côté, de par exemple, là, d'un dossier passionnant. Quoi. Voilà. Yann J, merci. Ça m'éviterait de partir pour la présidentielle. Hein. Voilà. Il y a Hephaïstos qui dit j'ai le son qui a coupé pendant une seconde avec le timing. J'ai cru que c'était déjà le ban. T'imagines, ban, instant ban, instant ban. Merci Yanis Léris pour le soutien. Merci. Oh, c'est bizarre, il y a plein de Yann. Il y a Yann qui vient de prendre un 33e mois d'abonnement. Niveau 3, s'il te plaît. Pour 6 mois. Pour 6 mois. Ça, c'est l'effet présidentiel. Il y a Yanis Léris qui a pris un 14e mois. Et il y a eu un cadeau anonyme qui a été offert à un sub à Gros Lolo Finito. C'est un joli pseudo. C'est parce qu'on a vu des seins rapidement sur un tableau que... Il y a un gros Lolo Finito dans le chat. Comment ça se passe? Voilà. Merci Bud GG. Voilà. Et donc pourquoi? Alors ce dossier, il est formidable. C'est moi je savais pas. Il y a une exposition qui démarre où ça? Qui démarre au Centre Pompidou à Paris sur le surréalisme, l'histoire du surréalisme. Alors moi c'est un mouvement qui m'a passionné quand j'étais jeune, vraiment. Le surréalisme en littérature, en peinture aussi. Et il y a une magnifique expo à Beaubourg, voilà. Et la Croix en parle merveilleusement bien. Ça m'a juste donné envie d'aller voir cette expo, voilà. Voilà. Allez. Bon bah les amis, vous êtes prêts? Prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Là, on a fait le sommaire et maintenant on va lire tout ça en prenant le temps. Je suis prêt depuis que je suis né. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Voilà. Je ne suis pas prêt. Ah, on peut pas commencer. Il y a Tsubasa qui n'est pas prêt. Zut. Bon, ben, on attend alors. Tsubasa, tu nous dis? Tu nous dis? Faites vite votre caca, les gens pas prêts. Attends, je vais aux toilettes. Oh, ça ne parle que de caca ici. C'est fou, ça. Je vais chercher un café d'abord. Oh les gars, vous êtes combien? Vous êtes 4000, je veux pas attendre tout le monde. Attendez, je mets un slip quand même. Bah oui, Remake, quand même. Vas-y. Alors, pourquoi un nouveau décor? Est-ce que t'as déménagé? T'as pris un studio? Point d'exclamation, studio. S-T-U-D-I-O. Et vous avez les explications. Voilà. C'est un studio exceptionnel. « Merci Donwar, comment vas-tu? Merci pour le 24e mois. Salut Framboise, comment vas-tu? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer. On va commencer avec le budget. Bon, Matignon en suspens, titre Le Parisien, on n'a toujours pas de Premier ministre. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le déficit se creuse. Il pourrait atteindre ce déficit 5,6% du PIB en 2024 au lieu des 5,1% envisagés. C'est assez important quand même, hein. Rappelons que pour rester dans les clous normalement de l'Europe, il faudrait être autour de 3%. Sans Premier ministre et sans majorité à l'Assemblée, ce nouveau dérapage rend le vote du budget encore plus périlleux. Enfin, c'est un peu compliqué. Mission impossible, même estime le Parisien, alors que le nom du futur Premier ministre n'est toujours pas connu, à moins que quelque chose soit tombé ce matin. La dégradation de la situation économique exige de prendre des décisions rapides, mais comment les faire adopter par une Assemblée fracturée comme jamais? Mission impossible. Le futur locataire du 57 rue de Varennes devra, pour faire adopter le budget par le Parlement, se lancer dans une de ses missions à l'issue plus qu'incertaine, écrit le Parisien. Imaginez, au sein d'une Assemblée nationale jamais autant fractionnée sous la 5e, c'est vrai, dont les programmes portés par les partis aussi entre la politique de l'offre, si chère à Emmanuel Macron, avec notamment plutôt une réduction des impôts, et celle de la demande promise aux électeurs, notamment par la France Insoumise et un SMIC à 1600 euros, hein, donc des caps économiques qui sont extrêmement différents, il faudra trouver une majorité avec des états-majors déjà focalisés sur la présidentielle de 2027, voire avant si jamais le président démissionne. D'autant que la situation des comptes publics empire, le déficit pourrait atteindre 5,6% du PIB en 2024, au lieu des 5,1% envisagés. Pourquoi tout le monde en parle ce matin? C'est parce qu'en fait les chiffres viennent de tomber, ils ont été transmis par Bercy aux parlementaires. Bercy qui pointe un dérapage incontrôlé des finances des collectivités locales, notamment, de déjà 8 milliards d'euros pour cette moitié d'année, qui devrait atteindre 16 milliards à la fin de l'année. Les collectivités locales, elles, se défendent en disant non, pas du tout, on s'engage parce que l'État se désengage, on ne dépense pas tant que ça, etc. Autrement dit, pour rester dans les clous de la trajectoire budgétaire envoyée à Bruxelles au printemps, hein, parce qu'on est sous le coup, je crois, d'une mesure, comment dire, d'avertissement par Bruxelles, hein, sur ce sujet, parce que les comptes publics français dérapent, il faudra économiser, écoutez, près de 20 milliards d'euros supplémentaires dès 2024. Voilà, 20 milliards. Quand je pense que certains stressent pour une collecte d'un million pour le The Event, hein, la fameuse présidentielle, là on est sur 20 milliards d'économies à trouver dès 2024. Si du côté du ministre de l'économie démissionnaire Bruno Le Maire, on rappelle que 16,7 milliards de crédits ont déjà été gelés et peuvent être annulés, Éric Coquerel, qui est le président LFI de la commission des finances de l'Assemblée, propose deux solutions radicalement opposées. La taxation des revenus du capital des plus riches, l'augmentation des salaires pour qu'il y ait davantage de cotisations qui rentrent. Donc vous avez, pour résumer, dans une vision libérale des choses, on dépense trop, il faut réduire les dépenses parce que le budget est insane, et une vision plutôt de gauche, ici portée par Éric Coquerel, de LFI qui dit « mais non !» Non, non seulement il ne faut pas baisser les dépenses, il faut les augmenter. Voilà. Et en revanche, on va taxer les revenus des plus riches, plus d'impôts, et on va augmenter les salaires, puisque si on augmente les salaires, ça fait plus de cotisations, et ça fait des rentrées fiscales. Le futur chef de gouvernement sera donc contraint de faire vite. Le projet de loi de finances doit normalement être présenté au plus tard le premier mardi du mois d'octobre, donc c'est dans pas longtemps. Sans oublier que les nouveaux ministres de l'économie et des finances vont être auditionné par la commission des finances de l'Assemblée. Et là, on a une date limite qui est fixée au 11 septembre. Et quel jour, là? Quel jour? Mais quel jour aujourd'hui? Ah bah c'est marqué sur mon écran. On est le 4. On est le 4. Ouais, c'est dans une semaine. Eh ben ouais. La date est fixée au 11 septembre. Si on n'a pas le gouvernement à ce moment-là, autant considérer qu'on n'aura pas de budget, avertit Éric Coquerel. Même si la Constitution prévoit qu'on puisse avoir un budget par décret, ce serait une situation de crise terrible. Parce qu'à un moment, peut-être que la question a déjà été posée dans le chat. Samuel, j'ai peur pour toi. J'ai peur pour toi de te bloquer ton compte, Samuel, pour Twitch. Alexandra, on a vu un tableau magnifique. Tu penses que Twitch... La modération sur Twitch est à ce point peu intelligente pour ban une chaîne parce qu'elle a parlé d'art? Non, moi je fais confiance à l'humanité, dans l'humilité. Ne t'inquiète pas Alexandre, ne t'inquiète pas Alexandre. S'il n'y a pas de gouvernement, S'il n'y a pas de gouvernement qui a établi un budget qui puisse être validé par l'Assemblée, la Constitution prévoit que le budget puisse être déterminé par décret, par l'exécutif, par le président et le gouvernement démissionnaire. Démocratiquement parlant, c'est un petit peu ennuyeux. Hein? C'est un petit peu ennuyeux. C'est pour ça qu'Éric Coquerel parle d'une situation de crise terrible. Libération se penche aussi sur le sujet. Budget et crise politique, les comptes en branque, alors qu'il reste, petit jeu de mots, hein, compte en banque, compte en branque, alors qu'il reste moins d'un mois pour présenter une loi de finances devant le Parlement, l'annonce par le gouvernement démissionnaire d'une probable aggravation du déficit public rajoute à l'urgence de nommer un Premier ministre. C'est toujours la même idée. Dans le flouze total, hein, hein, la situation des finances publiques devient de plus en plus préoccupante, le débat parlementaire s'annonce bouillant, voilà. Donc ça, bon, finalement, Libération fait le même constat que Le Parisien. Et alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est les solutions. Parce que moi, je ne suis pas là seulement pour vous faire stresser et créer de l'anxiété sur l'actualité. J'essaye aussi de vous dire, bah, y a des solutions parfois aux problèmes, aux crises. Merci Nico Loco pour le troisième mois. Merci The Voyageur pour les bits. Et alors, il y a deux pistes. Ou il y a une logique libérale, donc il faut réduire la dépense. Là, c'est proposé par les Échos, par exemple. Ou une logique plutôt de gauche. Non, tout cramer, Itachou, il n'est pas une solution. Qui est proposée par l'Humanité, vous allez voir, c'est assez intéressant. Après, c'est à vous de vous faire votre opinion. Les solutions qui s'offrent au futur exécutif pour dresser le déficit, ça c'est le dossier des Échos. Hein. Je lis, article de Renaud Honoré, alors qu'il s'apprête à quitter Bercy après 7 années de règne sur la citadelle économique, Bruno Le Maire, 7 ans à Bercy quand même, hein, s'efface en laissant derrière lui deux messages. Les comptes publics se trouvent dans une situation passablement dégradée, bon ça ok, on a l'info, mais les revues de dépenses qu'il avait commandées offrent des pistes d'économie à qui voudrait s'en saisir. Le futur locataire de Matignon pourra toujours piocher, estiment les Échos, dans les idées laissées par le gouvernement. Voilà. Alors, dans quoi on pourrait piocher pour faire des économies? Les aides aux entreprises. Hein, le Bercy dit, ben, au niveau des entreprises, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Peut-être qu'on pourrait les diminuer. Le crédit impôt recherche, par exemple. On pourrait supprimer des taux réduits de TVA sur certains secteurs, un certain secteur, restauration, services de télévision, les eaux en bouteille. Hein. On pourrait taper dans la politique d'apprentissage, qui est un grand succès, mais qui coûte cher. On pourrait taper sur les dispositifs médicaux. Hein. Notamment en demandant une participation plus importante aux usagers, via par exemple une franchise. Plus importante parce qu'elle existe déjà. On pourrait, explique les Échos, lutter contre l'absentéisme dans la fonction publique, hein, avec l'instauration d'un deuxième, voire un troisième jour de carence. Voilà. On pourrait revenir sur les hausses de crédit promises pour les armées, pour la recherche, pour la justice, pour la sécurité. Tout ça, ça s'appelle l'austérité. Enfin, ça s'appelle l'austérité. Certains disent l'hyper-austérité. Le budget est en déficit lourd, la dette française se creuse, il faut donc réduire les dépenses, c'est la piste proposée par les Échos. L'Humanité n'est pas du tout d'accord, voilà. Et dit, comme le Romcito23 l'écrit dans le chat à l'instant, et si on allait chercher de l'argent chez ceux qui en ont plein les poches, ben voilà ce que dit l'Humanité. Dernière bataille, dernière Matignon, pardon, la bataille du budget, l'Humanité qui estime que le tour de vis austéritaire qu'Emmanuel Macron prévoit pour 2025 explique pourquoi il tarde tant à nommer un Premier ministre et écarte Lucie Castelrock. L'Humanité va assez loin dans son analyse en estimant que si le président Macron met autant de temps à attendre, autant de temps pour nommer un Premier ministre, en fait c'est exprès. C'est parce que plus il le nommera tard, et moins finalement le gouvernement aura le temps de se retourner pour voter un nouveau budget, et qu'en fait ce sera le budget un peu préparé par Bercy qui s'imposera. Ça c'est l'analyse de l'UMA. Macron temporise depuis plus de 7 semaines sur la nomination d'un Premier ministre, c'est parce qu'il tente de faire passer en force, estime l'Humanité, hein, je ne sais pas si l'UMA a raison, le budget austéritaire que le gouvernement démissionnaire prépare en cachette. Bon, en vrai, il n'est pas préparé en cachette, puisqu'on sait déjà quelles mesures d'économie ont été proposées par Bercy. L'Humanité qui dénonce une purge des finances publiques. Les documents transmis par Bercy prévoient des coupes en valeur absolue dans de nombreux ministères, des coupes drastiques pour l'aide publique au développement. Tu as raison d'ailleurs, cas de fromage, des lois de rectification du budget sont possibles. Encore faut-il que l'Assemblée se mette d'accord. Tu sais, cette Assemblée avec des blocs très opposés, très divisés. Ça, c'est pas évident. Donc, réduction pour l'aide publique au développement, réduction pour le budget du sport, pour l'agriculture, pour l'outre-mer, pour la santé, pour l'écologie. Voilà. Ce serait une politique de super austérité, dénonce Éric Coquerel, le président de la commission des finances, le LFI. Et à mon avis, une dégringolade économique, parce que faire baisser les dépenses publiques a aussi un effet récessif sur l'économie, dit-il. Salut Evoxia, comment vas-tu? S'alarme le président de la commission des finances. Conclusion de l'article de Lisa Guillemin dans l'Humanité, que je trouve assez intéressant. À contre-pied total du programme du NFP, ces mesures d'austérité, pour établir le service public, la coalition arrivée en tête des législatives tablait sur une augmentation, non pas une réduction des dépenses, mais sur une augmentation des dépenses, hein, de 150 milliards d'euros à l'horizon 2027, soit 22% de plus que le budget public actuel. Mais ces dépenses pour le bien commun pourraient être entièrement financées par le retour d'impôts supprimés par Emmanuel Macron, comme l'ISF. Voilà. Et la création de nouveaux impôts, comme la taxe sur les super-profits. Voilà. Donc bon, c'est extrêmement... Excusez-moi, il y a un viewer qui a gagné un petit historique de chat. Ça, c'est mon petit plaisir. Alors, Monsieur Barracuda, c'est sa première fois sur notre chaîne. Premier message à 10h11, wesh. 10h12, salam les keys, les keys, je sais pas. 10h13, wesh, j'ai acheté un T-Max, on est bien les keys. Okay. Ou les keys, je sais pas comment on prononce. 10h13, voilà, ça paye bien France 2. Bon, je travaille sur France 3, ça, tout est faux, quoi. Il n'y a rien qui va. 10h14, Asie Poucave. Et 10h16, parce que je fais une revue de presse, donc je lis des articles. Ok, on sait lire, merci. Qu'est-ce que je fais de ça, moi? On dit Ray, Ray. Ok. J'ai appris un truc. Qu'est-ce que je fais de ça, moi? Ok, on sait lire, merci. C'est une revue de presse, Pruneau, va. Je suis en train de lire des articles. Tu sais pas ce que c'est une revue de presse? Alors, moi, comme je suis un gentil garçon, je propose un petit ban temporaire, un petit TO, un petit time-out. Pas un ban def, à Monsieur Barracuda. Voilà. Pour qu'ils se rendent compte qu'on est sur une chaîne où on essaie de parler de l'actualité en disant plein de bêtises, mais de façon la plus intelligente possible, pour comprendre un petit peu dans quel monde on vit et voir éventuellement comment l'abroger. Donc, tes histoires de T-Max et tes histoires de On sait lire, ce dont je doute un petit peu d'ailleurs, bref, non, je pense que tu peux faire. Élève ton niveau de jeu, Barracuda. Voilà. Enlève-moi tes gros colliers là. Ceux qui ont la ref, Barracuda, l'agence Tourisque, la camionnette, Looping, voilà, on part assez loin, mais voilà. Élève ton niveau de jeu et reviens, quoi. Hein? Parce que tu peux pas, c'est pas intéressant, quoi. Ça tire à balles réelles. Non, non, c'est de l'éducation. À un moment, on crée. Ici, Twitch, c'est quoi? C'est des communautés. On crée des espaces de discussion, d'échange, en fait. Bah, évidemment, il faut que tout le monde joue un peu le jeu d'une communauté. Après, il y en a plein. Ouais, ici, c'est qu'on s'exprime à peu près correctement, on essaie de comprendre des trucs et on rigole, mais de façon un peu pertinente, quoi. Voilà. Donc, la dernière chance, au dernier moment. Voilà. Donc, time out. Et si tu veux revenir avec d'autres histoires que ton histoire de T-Max ou de Ray, comme ça qu'on dit, voilà, ou de ça va, on sait lire, c'est pas la peine de lire les journaux, tu seras le bienvenu, mon ami. Ok. Bah, on fait des phrases ici, exactement, Ninja, exactement, on essaie de faire ça. Donc on dit les raies. On dit les raies ou les raies? Parce que moi, du coup, grâce à Barracuda, j'ai appris un truc. Vous voyez, rien de perdu, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Comme les raies? D'accord. Comme la raie? D'accord, ok. On dit, est-ce qu'on prononce le S? Moi, j'ai appris un truc, vous voyez. On dit les raies au pluriel? Ça veut dire les frères. D'accord. Comme au rouillard un peu. C'est un peu pareil, c'est un peu la même racine. C'est ça? Bah, je connais ça. Ok. Ah, c'est roya à la base. Frère en arabe. Ok. Oh, bah, je connais. D'accord. Bah, au pluriel, est-ce qu'on prononce le S juste? Est-ce qu'on dit les res ou on dit les ré? Juste et après on passe à autre chose. On prononce pas le S, on dit les ré. Ok, comme Roya. Ok. Pas de S, merci. Bah voilà, on a appris un truc. Moi, j'ai appris un truc. C'est un S muet. Ouais. Hein? On est parti d'un truc. Moi, j'ai appris un truc. Alors, merci Barracuda. Voilà. Voilà. Et reviens avec de meilleures intentions avec tes chaînes, ta camionnette et tout ça. Je sais pas si t'as la ref, c'est un vieux truc de vieux. Ok. Ray, on dit plutôt Ray. Ray, d'accord, ok. Ah oui. Donc, c'est pas comme la raie des fesses. Ray, d'accord, ok. Très bien. Donc, je reviens à l'humanité. L'humanité rappelle que le programme du NFP, c'est de dépenser plus. Voilà. Mais que ce serait compensé par de nouveaux impôts, notamment sur les plus riches. Ok, très bien. Ray, au final, il a servi. Mais tout sert. C'est pour ça que je m'attarde sur un message. Quelque part, ce qui m'a intéressé dans le message de Barracuda, c'est qu'il y avait des mots que je ne comprenais pas. Et je ne connaissais pas Ray. Voilà. Il peut créer sa chaîne Twitch maintenant. Et du coup, Gold est ban. Mais il est pas ban, il a un TO. Il a un time-out. Wesh, ma Ray, bien ou bien? C'est ma ou c'est mon? C'est mon Ray plutôt. On dit un Ray, pas une Ray. Voilà, on est parti sur autre chose là. Hein? C'est mon Ray. Ok. Alors, c'est exactement ce que dit également un député communiste qui s'appelle Nicolas Sansu, et dit à force de pertes fiscales, les caisses de l'État sont à sec. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas qu'on dépense trop. Il dit qu'on a trop réduit les rentrées fiscales. Hein? Le député PCF Nicolas Sansu, membre de la commission des finances, estime que le macronisme, mène le pays à la faillite et appelle à retrouver des recettes fiscales. Voilà. Bon, vous avez compris à peu près le truc. Bon, ça c'est l'aspect budgétaire. Maintenant, la situation politique. Quand est-ce que vous avez un pronostic, vous? Quand est-ce que on va avoir un nouveau Premier ministre? Ça fait 50 jours que les Français ont voté aux législatives. Donc, vous avez un pronostic? 2025? 2027? Putain, ce serait un sacré déni de démocratie. Novembre, décembre, Quentin, vous n'êtes pas très optimiste. À la Saint-Glinglin, exutoire. Le 31 février, dans 10 mois. Après les Paralympiques, peut-être. Vendredi, il m'a dit, Twitchman. À Noël, le 25 décembre. Jamais il ira jusqu'au bout avec le gouvernement démissionnaire, c'est impossible, Liam. Ce serait un déni de démocratie, tu peux pas. Tu peux pas. Ce serait un scandale. Et à un moment, ça fâcherait les gens, quoi. Alors ça, oui, Ox, le brochetto, le rappelle et il a raison, et je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de date dans la Constitution. La Constitution ne donne pas de délai pour que le président nomme le nouveau Premier ministre. Il n'y a pas de délai. Ça, c'est le texte. C'est le texte. Mais rester avec un gouvernement démissionnaire pendant des mois, voire des années, c'est évidemment un déni de démocratie. Donc, garder ce gouvernement démissionnaire sans en nommer un nouveau respecte a priori le texte de la Ve, mais pas l'esprit de la Ve République, qui est une constitution d'un régime démocratique. Voilà. Et garder un gouvernement démissionnaire et ne pas tenir compte du vote des Français, c'est une insulte à la démocratie. Voilà. Je pense que ça fâcherait pas mal les gens. L'impasse jusqu'à quand, se demande quand même le Parisien, parce que je ne suis pas le seul à m'impatienter. Ce mardi, Emmanuel Macron a encore passé sa journée à consulter les responsables politiques. Ses proches veulent croire en un dénouement ce mercredi. On verra. Si ça tombe aujourd'hui, je vous fais une revue de presse demain matin spéciale là-dessus. Okay? Le président de la République voulait une clarification, c'est ce qu'il avait dit. Hein. Moi, je fais une dissolution pour provoquer une clarification du paysage politique français. Pour le moment, c'est une impasse. Bon, on peut dire que c'est bien raté, surtout. Après 50 jours de gouvernement démissionnaire, Emmanuel Macron n'est toujours pas parvenu à trouver un nom pour Matignon. On croyait la piste, Bernard Cazeneuve, l'ancien socialiste, bien avancé en fin de semaine dernière. Finalement, c'est le nom de Thierry Baudet. On a beaucoup parlé de Bernard Cazeneuve. De Thierry Baudet, qui est le patron du Conseil économique, social et environnemental, qui a surgi lundi matin, ouvrant la voie vers la nomination d'un Premier ministre, non pas politique, mais issu de la société civile. Crédible, point d'interrogation, pas sûr, puisque 24 heures plus tard, c'est de nouveau le nom de Xavier Bertrand, homme de droite, mais qui n'est plus à LR, qui était cité. Voilà. Avant que le RN ne brandisse une censure immédiate, si jamais c'était Xavier Bertrand. Parce que le RN un peu durcit le ton et finalement dit, bon, si c'est Xavier Bertrand, on censure. Si c'est Bernard Cazeneuve, on censure. Oula. Bon. Toujours le même film qui lasse, titre Libération. Les partisans du président Macron, soucieux d'alimenter le mythe d'un chef de l'État ayant toujours la main, se plaisent à dépeindre un joueur d'échecs, inspectant toutes les options, aimant surprendre, jouer avec les nerfs de ses adversaires depuis l'échec de sa dissolution. Macron semble, surtout, estime Libération en panne d'inspiration. Voilà. Des hésitations du président Macron qui crispent le monde politique, peut-être qui... Est-ce qu'il crispe les Français ou pas, d'ailleurs ? Tiens, vous savez quoi, on va faire un sondage ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un sondage ici. Que ça vous crispe, vous ? Pas Chris Prolls, hein ? Alors, je reprends l'intitulé, je crois sur un clavier, il y a 6000 touches. Les hésitations de Macron... Vous, Crisp, est-ce que ça vous énerve ? Beaucoup ? Un peu ? Je propose aussi, il a raison d'attendre. Vous pouvez valider, comment dire, la stratégie Macron. Vous avez le droit, hein ? Ça m'intéresse. Il a raison d'attendre. Mais je propose aussi, vous allez voir, je vous lance dans un instant, sondage. Je vous propose aussi, ça ne m'intéresse pas. En mode, ces hésitations ne me crispent pas, parce que tout simplement, ça ne m'intéresse pas, ce débat. Hein. Vous voyez, j'essaie de proposer un sondage qui colle un petit peu à toutes les... Voilà. Et vous avez aussi le droit, puisqu'on est en démocratie, et en démocratie, on a le droit de ne pas avoir d'avis. Voilà. Sans opinion. Donc je rappelle, je lance le sondage. L'hésitation de Macron vous crispe beaucoup, un peu. Il a raison d'attendre, ça ne m'intéresse pas. Vous avez 2 minutes. Let's go. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sondage ici. Voilà. En tout cas, ça vous fait réagir. C'est juste désespérant et puéril, dit Simba. J'ai l'impression de voir un gosse qui n'est pas content parce qu'il n'a pas eu son bon jouet. Crispé, non, mais c'est chiant. Teddy Jules estime que bah, l'immobilisme, ça me va plutôt. Et le sondage, il donne quoi ? Ah oui, quand même, ça crispe. Ah, ça crispe. Ah, ça crispe quand même, un petit peu. Macron joue la montre, il est tacticien, mais c'est un déni de démocratie, distance. Je n'ai pas le sondage. Ah, Rolipoli, t'es sur portable, c'est pour ça ? Sinon, F5. C'est quoi que tu... Ah oui, non. Total désaccord avec lui, mais j'ai tellement pas envie d'y consacrer l'énergie. Ok. Il a raison d'attendre pour laisser les opposants commettre des erreurs, mais c'est crispant. Il est où le sondage ? Ben, manifestement, il y a 600 personnes qui ont voté, donc certains l'ont trouvé quand même. Je suis plus crispé qu'une crampe, me dit Tal Blues. Ok, donc je vous mets la scène. Pardon, c'est pas mon setup habituel, normalement vous l'avez là. Voilà, il reste 40 secondes. Est-ce que les hésitations de Macron vous crispent ? Oui, à 49%, on est quasiment sur une majorité absolue, le truc qui n'arrive plus jamais maintenant en France. Un peu 20%, donc si j'ajoute les 49 ou 20, ça nous fait près de 70% de gens que ça crispe quand même. Hein, comme Natacha, ouais. Tendu comme Natacha. T'es tendu, Natacha. T'es tendu, Natacha. Il y a beaucoup de Natacha dans le chat là ce matin. Donc on est sur du presque 70%. Il a raison d'attendre, vous avez 12% de gens qui comprennent cette stratégie quand même, c'est intéressant. Et vous avez 13%, et c'est aussi intéressant, de gens que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Là, ça m'en touche une sans bouger l'autre, comme disent certains. Et sans opinion, 5%. Voilà. Ok. Si je te dis que t'es tendu. Tout le monde a la rêve, je pense. Comment il s'appelle ce film incroyable, Dickeneck ? Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Allez, ceux qui n'ont pas vu Dickeneck, ceux qui n'ont pas vu Dickeneck, j'ai pas la rêve, Cyril ? Dickeneck. D-I-K-K-E-N-E-K. Dikonek, c'est un film. C'est un film mythique. C'est un film mythique. Comment il s'appelle déjà l'acteur là Comment il s'appelle? Ou tu sors ou je te sors. La cabine téléphonique. Chaque scène est mythique. François Damiens. Ouais. Mais il y a Marion Cotillard dedans aussi. Il y a. Oh, c'est incroyable. Le casting est ouf. Le film n'a aucun sens. C'est juste génial. Voilà. Dikonek. Allez voir ce film. Allez voir. Un film rempli de super punchlines. C'est pas un film, c'est une œuvre magistrale, dit Vince Vaughn. Ouais, il est fou. Il y a Florence Foresti. Je me suis fait carjacker l'auto, maman. Ouais. Maman, tu ne diras jamais ce qui m'arrive. Je me suis fait carjacker l'auto. Ah, quel enfer, quel enfer. Alors, on en est où? Donc, l'hésitation de Macron crispe le monde politique, c'est le constat maintenant du Figaro. Le macronisme. Oh, le Figaro qui fait un peu de l'humour. Hein. Je lis. Le macronisme, c'est long, très long, surtout à la fin. Boy, 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 boy. Ça y est, le Figaro, ça rigole. Les Français qui ont voté 3 fois en un mois, européenne, premier tour, deuxième tour des législatives, assistent avec un mélange de stupeur et d'irritation hein, à ce temps gaspillé, écrit le Figaro. Je lis l'article signé par Célestine Gentilhomme, Emmanuel Galliero et Richard Fleurin. Emmanuel Macron a repris ce mardi les discussions par téléphone, cette fois avec les forces politiques. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a un nouveau décor, vous tapez point d'exclamation décor dans le chat, vous avez toutes les infos. Hein, un cycle presque interminable, tant la chorégraphie se répète depuis le 23 août, et je consulte, et puis il n'y a pas de solution, et je consulte, il n'y a pas de solution, et je consulte, il n'y a pas de solution, et je consulte. Je pense que vous avez compris le principe. Le chef de l'État avait déjà reçu les patrons de partis et des groupes parlementaires. En vain, ça tourne au ridicule. Il faut... Ah non, c'était pas décor, c'est studio. Non, c'est studio, je suis gouré. Point d'exclamation studio, pas décor. Point d'exclamation studio. Parce que c'est mon nouveau studio. Parce que c'est notre studio. En vain, ça tourne au ridicule, il veut jouer le maître des horloges, mais la vérité, c'est que l'horloge est déréglée, estime un parlementaire de gauche. D'autres élus ne sont pas loin de penser qu'au bout du compte, ils auront été... Ça, c'est intéressant. Certains élus se demandent s'ils ne sont pas les élus qui ont été consultés, vous savez, pour essayer de trouver une solution, qui ont été appelés par le président Macron. Certains se demandent s'ils n'ont pas été instrumentalisés. Ça, c'est une analyse que je ne lis que dans le Figaro ce matin et je trouve ça intéressant. C'est trop mignon, juste Lily, et bisous à ton petit bonhomme. Ou à ta petite fille, d'ailleurs. Trop chou. Est-ce qu'ils n'ont pas été instrumentalisés lors d'une séquence infernale pour cultiver l'image d'un président soucieux de démocratie, je consulte, j'écoute, je rencontre, petit café, qu'est-ce que tu veux? Ça peut pas être possible. Hein, se plaçant en chef d'orchestre au-dessus de la mêlée pour faire vivre la réflexion collective, foutaise, on a plutôt l'impression que tout est écrit d'avance dans sa tête, estime un élu de droite. Et sous des apparences de consultation, hein, d'écoute, eh bien, il y aurait quelqu'un qui, depuis le début, sait ce qu'il va faire et il sait où il va. D'autres disent non, il navigue complètement à vue, il n'a aucune idée d'où il va. Bon, ça, on ne sait pas. Il faudrait être dans sa tête. Est-ce que le président Macron est là? Peut-être que le président Macron est déjà passé sur cette chaîne. Est-ce que le président Macron est sur ce chat? Oui. Alors, il est là. Son pseudo, c'est Vitesseman. Ah oui. Et alors, c'est quoi le projet alors? Alors, quel est le projet alors? Puisqu'il est là. Oui, alors quel est le projet? Ben comme le début. Hein, bon. Je ne le sais pas moi-même. Hein, Vitesseman. Qui a priori est donc le président Macron, répond « Je ne le sais pas moi-même. » Si Emmanuel Macron avait pu se nommer lui-même et cohabiter avec lui, il l'aurait fait, rigole Mathilde Panot. Le principe d'une démocratie, c'est que si vous convoquez des élections, vous vous exposez au risque de devoir changer de politique. On est bien d'accord là-dessus. Hein, qui dit ça? C'est Nicolas... Oh, il manque la suite. Il faut que je vous donne la citation quand même. C'est quelle page? Page 2. Bah, on est sur une chaîne un peu rigoureuse. Page 2. Il me manque le nom de la personne qui vous parle. Les sources, toujours. Nicolas Maillet-Rossignol, numéro 2 du PS. Alors, que dit-il? Voilà. Le principe d'une démocratie, que si vous convoquez les élections, vous exposez au risque de devoir changer de politique. Bah ouais. Le chef de l'État doit le comprendre. Bah oui, bah oui, bah oui, c'est une évidence, mais faut-il le rappeler? Merci, cadeau anonyme, l'abonnement anonyme à Emmanuel Macron, le vrai. Merci, Belle Bosse, pour le 4e mois. Merci, Vitesse Man, pour le 7e mois. Merci, Murpaflex, pour le 4e mois. Merci, Matt, pour l'abonnement Ferrari Commu. Matt, pour l'abonnement que tu as pris pour toi, Matt 79 440. Merci Quentin. Mais j'avais pas vu. Je t'ai remercié Quentin pour les 10 abonnements faits à la commune tout à l'heure, je t'ai jamais remercié. Quentin, 4, Quentin, je t'ai pas remercié. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 8, pas 9, mais 10 abonnements à la commune. Marconnet premier, Astrid Oudou, The Voyageur, je pense que je vous ai remercié tout à l'heure. Ok. Mais Quentin, je t'ai pas. Oui, c'est là, je t'ai pas remercié tout à l'heure, Quentin, je suis désolé. Je t'ai vu, puis j'ai dû partir sur un truc. Autant pour moi. Quentin, un grand merci. Voilà. Tu sais quoi, on va rajouter ça à la cagnotte du The Event, comme ça, si jamais je me présente à la présidentielle, ce sera un peu grâce à toi. Voilà. Donc oui, ça va sans dire, mais mieux en le disant, oui, quand tu convoques une élection, bah, que les Français votent pas comme tu le veux, bah, changement de politique. Voilà pour la séquence politique. Maintenant, on va parler un petit peu d'énergie. Précisément, on va parler de nucléaire. Je surveille l'horaire, puisqu'à 11h45, je devrais aller dans le studio de MVP. À 12h, je vous le rappelle, grande première de ma nouvelle émission sur Twitch, MVP. Voilà, on parle du monde du travail, on parle de métier, on parle de secteur d'activité, on reçoit des invités dans tel ou tel métier pour un peu explorer cet univers. Voilà, l'idée, c'est d'explorer les voies professionnelles pour que chacun puisse trouver la sienne. Rendez-vous à midi. Alors, on ne cuttera pas le stream, on va enchaîner. Trois invités, trois chroniqueurs, ça va être la fête. Mais là, on va parler de nucléaire. C'est la une des échos, mardi 15h54, précisément, avec 12 ans de retard, c'est incroyable cette histoire, l'EPR, la centrale nucléaire EPR de Flamanville, démarre. Après 17 ans de chantier calvaire, ça a été très compliqué, hein, enfin, Flamanville écrit Nitram dans le chat. EDF a donc mis en service son premier réacteur EPR en France, un jalon historique, on va revenir sur ce que c'est. Hein. Tu manges quand? Moi, je mange pas. Un jalon historique alors que le groupe travaille à la relance de la construction de nouvelles centrales en France et en Europe, EPR deuxième génération, hein. A priori moins compliqué. La centrale doit être connectée au réseau à la fin de l'automne. Là, elle est démarrée, mais elle va monter en puissance. Hein. Pour l'instant, elle produit très très peu d'énergie. Elle va monter en puissance progressivement. C'est une nucléaire, on ne fait pas n'importe quoi. Les ingénieurs pilotent tout ça. Et la connexion au réseau, c'est à la fin de l'automne. Ça va crasher parce que ça est vraiment très puissante. Déficator nous rappelle que le démarrage avait été annoncé pour 2012 par Nicolas Sarkozy lors des présidentielles de 2007. Mardi 15h54, le réacteur EPR d'EDF à Flamanville démarre enfin. Article de Sharon Vachebrotte. C'est désormais chose faite. Depuis mardi 3 septembre, à 15h54, décidément l'heure est très, très, très précise, le réacteur EPR de Flamanville est officiellement en production. Dans la soirée, ce sont les équipes de CAR chargées de piloter le réacteur EPR qu'EDF a construit ces 17 dernières années, 17 années de chantier, qui ont lancé la première divergence du réacteur, hein, le petit coup de clé de démarrage, quoi. Ce réacteur nucléaire de nouvelle génération, le 57e réacteur opéré par EDF en France, le premier à être inauguré depuis 25 ans, c'est le premier réacteur nucléaire à être lancé en France depuis 25 ans. Vous savez qu'il y a eu un déficit d'investissement sur l'énergie nucléaire. Il y a quelques années même, on avait un président qui voulait en sortir, hein, le président Hollande, suite à un accord avec les écologistes. Et puis le président Macron, son premier quinquennat, n'avait pas pris finalement d'engagement là-dessus et semblait rester sur la même ligne. Et puis à la fin de son premier quinquennat, énorme surprise, hein, le président Macron a dit « Allez, on réaccélère sur le nucléaire », ce qui était totalement nouveau. La connexion au réseau électrique de cet EPR de la Manche doit intervenir à la fin de l'automne. Ce réacteur le plus puissant du monde. La France, mesdames et messieurs. La France, mesdames et messieurs. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est où? C'est chez nous. Les Jeux Paralympiques de Paris, c'est chez qui? C'est chez nous. Platini, c'est chez qui, ça? C'est chez nous, ça. Zizou, c'est chez qui? C'est chez nous, ça. Hein? Le The Event, c'est où, ça? C'est chez qui, ça? C'est qui, ça? Bon, le plus gros... Le plus gros réacteur nucléaire au monde. J'ai dit quoi? Montpellier, ben Montpellier, c'est la France. Le plus gros réacteur au monde, c'est chez nous, c'est la France. Voilà. Pourra approvisionner en théorie jusqu'à 3 millions de Français. Vous vous rendez compte ce que ça fait 1 million? Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça fait déjà 1 million? L'Armina et les autres, là. 1 million. Mais 3 millions. 3 millions de foyers. Imaginez un tiers des 3 millions de foyers concernés donnent 1 euro aux The Event. Je me présente à la présidence. Pour EDF, ce lancement doit permettre de tourner une page très douloureuse de l'histoire du nucléaire français, lancée à la fin du quinquennat de Jacques Chirac, la construction de ce démonstrateur de la technologie EPR, porté à l'origine par le français Framatome et l'allemand Siemens, devait s'achever en 2012, en 2024, et ouvrir la voie à des commandes de réacteurs nucléaires en France et à l'étranger. Ça, c'était le projet. Puis finalement, c'est raté. Le chantier s'est révélé un gouffre financier pour l'État, un défi industriel inédit pour EDF, pour le groupe Bouygues, pour tous les sous-traitants, qui n'ont cessé de repousser la date de mise en service. Hein, je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire. Les 3 milliards d'euros budgétés au départ par EDF sont transformés en 13 milliards d'euros à terminaison du chantier. Les 5 ans de construction annoncés sont terminés en 17. 5 ans de chantier transformés en 17, 3 milliards devenus 13 milliards. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Voilà, mais ça, vous le saviez déjà, je pense. Voilà. Alors, c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui estiment que le nucléaire est une énergie souhaitable pour un pays comme la France. Le nucléaire français prend un nouvel envol, estime le Figaro. Hein, le père de Flamanville a commencé sa production lundi soir. EDF a révisé à la hausse ses estimations de production d'électricité nucléaire en 2024, avant même l'entrée en vigueur de l'EPR. Vous savez qu'à un moment, on a eu un problème avec nos centrales, notamment pour des raisons d'entretien de maintenance avec des micro-fissures. Voilà. Et en fait, ce qu'on apprend dans l'article du Figaro, c'est que ça a bossé, ça a bien bossé. Et en fait, voilà, notre capacité de production nucléaire est revenue au top niveau avant même l'entrée en vigueur de l'EPR de Flamanville. Il y a 2 ans, écrit le Figaro ce matin, l'énergéticien français, donc EDF, était empêtré dans cette crise de la corrosion contrainte, hein, du nom de ce défaut technique qui avait provisoirement mis à l'arrêt des réacteurs pour des raisons de sécurité, bien sûr. Comment s'appelle l'agence de sécurité en France pour le nucléaire là, qui avait demandé justement. Vous savez, vous, ça, ce genre de choses. Merci, Sam Brix. Non, c'est pas. Non. L'ASN, l'autorité de sûreté du nucléaire. Merci. Voilà. Et donc, des réacteurs avaient été mis à l'arrêt. Désormais, cet épisode est révolu, et moi je l'apprends par le Figaro ce matin, je n'avais pas suivi ce dossier. EDF a réussi à redresser sa production nucléaire au point d'annoncer en début de semaine une révision à la hausse de ses prévisions pour 2024. Pour parvenir à un tel redressement, l'entreprise a développé des robots soudeurs pour effectuer des réparations, drastiquement revu ses méthodes, voilà, et réduit la durée des arrêts de tranche. Donc là, le Figaro nous explique que du côté d'EDF et de ses partenaires, eh bien on a hyper bien bossé. L'EPR de Flamanville ne va pas contribuer cette année à la hausse des électrons produits en France, sa montée en puissance étant très progressive, mais sa mise en production marque un tournant pour le nucléaire français qui avait pâti du retard de ce chantier. Voilà. Donc le Figaro toujours va un peu plus loin sur ce sujet. Pour mesurer le chemin parcouru, un coup d'œil dans le rétroviseur s'impose. Il y a encore 2 ans, la France se demandait si elle disposerait de suffisamment d'électricité pour passer l'hiver. Je me souviens très bien, moi, de cette période, je présentais la matinale de France Info. À un moment, le débat, c'était est-ce qu'on va vers un blackout? Est-ce qu'à un moment, on va devoir priver une partie des Français ou des entreprises françaises d'énergie parce qu'on n'en produit pas assez? Vous vous rappelez de ça? C'est qu'on avait plein de centrales à l'arrêt. Ça, c'était il y a 2 ans. Notamment l'hiver, quand la demande est un peu tendue, quoi. En cas d'éco-watt rouge, il y avait un plan qui avait été imaginé qui s'appelait comme ça, entreprises et ménages devaient se préparer à couper certaines consommations pour éviter le blackout. Voilà. On importait même de l'électricité de l'Allemagne. Désormais, l'épisode est pratiquement relégué au rang de mauvais souvenirs. Personne, pas même eux, ne pensait que la crise de la corrosion sous contrainte serait aussi rapidement résorbée, eux, c'est EDF. Sur le plan industriel, c'est remarquable, dit un consultant. Voilà. La France a retrouvé son rang de premier exportateur européen d'électricité, la France. Oui, plutôt délestage que blackout, on est bien d'accord. Oh non, ça c'est des petits mots de journaliste un petit peu, hein, pour impressionner le monde, ou des communicants ou des politiques d'ailleurs. Le renforcement de la puissance du nucléaire civil contribue à la souveraineté énergétique de la France, ouais. Hein. Et avec un atout majeur en plus, son faible impact carbone. Ça, vous le savez. Une énergie électrique en France produite majoritairement par le nucléaire, eh bien, c'est beaucoup moins d'émissions de CO2 que des pays où c'est produite cette électricité avec des centrales à gaz ou voire même pire à charbon. Dans le même temps, démarrer un nouveau réacteur nucléaire, en l'occurrence le Père de Flamanville, opération que la France n'avait pas réalisée depuis 25 ans. Premier succès d'importance alors où EDF s'apprête à lancer la construction de 6 EPR2. Je ne suis pas un spécialiste du nucléaire, mais je crois comprendre que ces EPR2 ne sont pas des copies conformes de l'EPR de Flamanville. Ils sont moins ambitieux, voilà, plus simples à construire et avec des chantiers a priori moins compliqués. Si les prochains réacteurs sont différents de l'EPR normand qui restera unique en son genre, voilà, l'expérience acquise sur le chantier et sur celui des EPR aussi à l'étranger, finlandais, chinois et britanniques, construits et en cours de construction, est fondamentale pour la suite. Voilà, ils sont simplifiés, optimisés. Des versions plus simples, exactement. Peut-être moins puissantes ou pas d'ailleurs, hein, optimisées, simplifiées, moins puissants peut-être, les EPR2. Vous avez l'info sûrement. Je sais que vous connaissez, mais certains connaissent bien ce sujet. J'attends la réponse parce que ce chat a toujours la réponse. Déjà, les EPR2 sont des paires, me dit Nounos, qui optimisent les coûts de construction. Ouais, même puissance. Ah, alors il y a Citus qui dit moins puissant mais moins cher à construire. Ok. Pas forcément moins puissant, me dit Arsenic, c'est sur la construction que ça diffère. Ok, très bien. Okay. Le revers de la médaille, et quelqu'un en parlait dans le chat, c'est le revers de la médaille de l'augmentation de la production électrique d'origine nucléaire en France, c'est le prix du mégawattheure. La remontée en puissance d'EDF a un impact structurant sur le marché européen de l'électricité. Voilà, donc en fait, le mégawattheure aujourd'hui, il se vend beaucoup moins cher sur le marché européen de l'énergie qu'il y a quelques années, en 2022 notamment. Quoi. Si c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour les entreprises, pour les particuliers, pour les consommateurs, la perspective est moins réjouissante pour le groupe public qui vend moins cher sa production. Il faut résoudre la quadrature du cercle, faire face au programme d'investissement le plus lourd de son histoire, ces EPR2 qui arrivent là, voilà. Le nouveau nucléaire, mais aussi le déploiement du réseau nécessaire au développement des énergies renouvelables, bien sûr. Le tout avec une demande qui tarde à décoller et des prix en berne. EDF va avoir besoin d'argent. Je résume. Voilà. J'irais bien faire pipi, mais je vais attendre. C'est une vie passionnante. Non, parce que là, je ne suis pas chez moi. Et les premiers toilettes, ils sont à... Il faut prendre 15 escaliers, quoi. J'ai vraiment une vie compliquée, moi. Eh ben, tant pis. Je rebois un petit café. J'ai pas rangé mon problème, ça. Après, on va parler des Paralympiques. Café ! Tu suis, c'était AK. Au pire, t'as le thermos. Ah ben non, parce qu'il est encore plein. Ah non, café, c'est si le donation goal est atteint. Bon, je vais pas faire... J'ai le temps d'aller faire pipi, là, rapide ? Non. C'est vraiment compliqué, faut... Je peux tenir encore une petite heure. Hein ? J'y vais ? J'ai conseillé la chaîne Twitch à mon ancien prof de SES au lycée Il Kiff. Ben je te salue, Nico Loco, et ton prof aussi. Pas de tiroir. Non, ben je suis pas dans mon setup habituel, j'ai pas le tiroir. Vas-y, on surveille ton sac à main. Bon, vite alors. Attends, j'ai quoi à vous lire encore. Les Paralympiques, le surréalisme. Ouais, non, je... Bon, je me dépêche. Je cours. Je cours. Attends, je coupe mon micro, c'est pas mon setup habituel. Je vous mets même pas d'écran de pause. Ok ? Voilà. Point d'exclamation MVP, si vous voulez les infos sur MVP. Point d'exclamation DG, pour les donation goals. Quoi d'autre ? Point d'exclamation studio, pour les explications sur le studio. Ok ? Je vous laisse discuter entre vous, je vais super vite. Ok ? Et je vous mets même une musique, allez, je vous mets une musique. Allez, on est fou. Alors, attends. Pause, c'est là. Ok, musique. Un petit truc sympa ? Pas mal ça. Allez, je me dépêche. A tout de suite, bande de belles personnes ! De la musique pour les abonnés? Et même petite page de pub ou pas? Pour ceux qui sont pas abonnés, ça va me payer le café? Ça, je pourrais m'acheter un tiroir à truc là. Allez, je me dépêche. Ça arrive. Comment ça? Comment ça? Qu'est-ce que je lis dans le chat? Elle a duré combien de temps la pause là? J'ai aucune idée. Je lis dans le chat, c'est quoi cette musique chelou? C'est super! Hein, c'était formidable! Je me suis lavé les mains! J'ai pris un escalier, deux escaliers, trois escaliers. Cinq minutes? Non, cinq minutes? Je suis parti cinq minutes? J'ai l'impression que c'est deux minutes. Ah non, c'était pas top? Ah zut, pas ouf. Ah désolé de vous avoir imposé ça. Attendez, je réponds à... Je réponds à un mail. On me relance pour une facture que j'ai pas payée. Voilà, j'ai raté un truc. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un bot. Donc je... On est bien le 4, hein, c'est ça, hein? Voilà. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Un instant, j'ai une bonne nouvelle concernant le The Event. Vous savez qu'il y a 5 associations, hein, que Zera et ses équipes ont choisi pour cette année. Voilà. Et bah, bon, c'est très bien de faire les foufous, de faire les donation goals qui font rire les gens. Voilà. Mais l'essentiel, le truc pour lequel on est pendant 3 jours mobilisé à Montpellier là, à partir de vendredi soir, on est d'accord que c'est pour les assos. Hein. Et pour moi, c'est le truc le principal. Quoi. Tout le reste est accessoire, même si on va essayer de passer un bon moment. Et donc, j'ai calé 5 interviews avec 5 responsables des assos. Voilà. Ouais, vendredi 18h, exactement, début des streams. Voilà. Donc, il y a donc le Secours Populaire, il y a Solidarité Paysan, il y a... j'ai ça sur plusieurs mails pro, je ne les ai pas tous sous les yeux, voilà. Et en fait, j'ai calé 5 interviews, donc vous aurez un moment des 3 jours, vous aurez les 5 responsables, parce que bah, il s'agit aussi de mettre les assos en lumière, de parler de leur combat, de leur mission, de à quoi va servir l'argent. Voilà, à quoi va servir l'argent. Donc c'est calé, les 5, voilà. Bon, y a chapitre 2, voilà, il y a copain, voilà. Il y a Secours Populaire, il y a Solidarité Paysan et... Bah attends, on va aller sur le visuel. Hein. Ah, mais mon compte Twitter doit pas être... Bah attends, je vais sur le téléphone à l'ancienne. Ça fait pas doublon avec les interviews de Zerator, ça lui pose pas de problème. Ah bah c'est lui qui nous a envoyé un message pour dire que ce serait cool qu'on le fasse. Donc je pense que Zerator sera d'accord avec Zerator. Je pense, hein. Pas sûr, mais normalement, ouais. Ça devrait aller, quoi. Normalement, hein. Ça devrait aller. Mais c'est gentil de vous inquiéter, en vrai. Donc, Secours Populaire, Solidarité Paysan, chapitre 2. Bureau du cœur et copains. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, bon, après, vu que à la base, je suis un peu journaliste aussi, c'est un peu... C'est un peu normal, quoi. Mais bon, mettre les assos en avant, je pense que c'est important. Donc, bonne nouvelle, la cinquième, là, Solidarité Paysan, ça vient de se caler. Voilà. Il nous reste combien de temps? Il nous reste un petit peu de temps, très bien. Ça veut dire qu'on a un petit peu de temps pour finir la revue de presse avec 2 infos importantes. Le succès des Paralympiques, ça, c'est super. Et aussi, une très belle exposition sur le surréalisme. Moi, je trouve ça génial. Ouais, et ça nous permettra aussi de... Vous savez ce qu'on fera? Je ferai un petit tuto make-up. Oui, parce qu'en fait, donc comme c'est un beau studio, des belles lumières, etc. et tout, il y a même une maquilleuse qui est prévue pour MVP, l'émission de 12 heures là, parce qu'il y a 3 invités, il y a 3 chroniqueuses. Ah bon, les garçons, ouais, on a notre tête, mais bon, quand t'as une invitée femme, en général, c'est quand même bien de prévoir éventuellement une maquilleuse pour voilà, quand les lumières sont très fortes et tout, pour faire un petit truc et tout. Donc comme moi, je ne vais pas avoir le temps, parce qu'en gros, je vais terminer ici à 11h50 et que je vais aller dans l'autre studio à midi, voilà, je vous ferai un petit tuto make-up et je vais me maquiller en direct ici, devant vous, ouais, pour gagner du temps. Hein, ouais, vous verrez, c'est incroyable. Et je sais faire en plus, je sais faire. Parce qu'à France Info, déjà, je faisais ça. Il y avait des maquilleurs et des maquilleuses, mais comme j'étais toujours à la rue et que j'avais toujours un truc à faire, un journal à lire, un machin, je me maquillais tout seul, en fait, avant les matinales. Ceux qui m'ont vu pendant 5 ans faire la matinale de France Info le matin, j'étais maquillé par moi. Donc, alors, si ça marche pour France Info, ça marche pour MVP. Voilà. Ouais. Tu sais tout faire. Non. Mais je me maquille. Voilà. Bon, un maquillage de garçon, c'est pas très compliqué, vous verrez, c'est assez rigolo. On fera ça vers 11h30. Ouais. En stream, je me maquille pas d'habitude, je vous rassure. C'est pour ça que tu fais moins peur en stream. Okay. Et ce qui est marrant, c'est qu'on reçoit en fin de MVP Enjoy Phoenix, Marie, qui ne fait plus ça aujourd'hui, mais qui a commencé sa carrière de créatrice de contenu sur le make-up. C'est très drôle, il y a un petit lien. Voilà. Et aujourd'hui, elle fait tout autre chose. D'ailleurs, elle est sur YouTube, elle est sur Twitch aussi. Et elle n'est plus du tout sur ses tutos make-up, là. Mais c'est marrant, quoi. Mais moi, je ferai un tuto make-up. Bon, on parle des Jeux Paralympiques. parce qu'il y a des... Merci Nicolas Loco pour les beats. Merci Whoops pour le troisième abonnement. Merci Don Cervantes 92 pour le huitième mois. Merci beaucoup. Parce que quand il y a des bonnes nouvelles dans l'actu, eh ben, il faut en parler. Boum, voilà. Et les Jeux Paralympiques, c'est une bonne nouvelle parce que ça se passe bien. Voilà. Les audiences sont bonnes, les gens se déplacent, c'est-à-dire les Français, c'est beaucoup de Français surtout dans les stades. Voilà, il y a des médailles aussi. Mais voilà, c'est ce que nous dit le Parisien ce matin. Tous gaga des paras, salut Camille à tout à l'heure, avec plus de 2,3 millions de billets vendus. Les gars, ils avaient 2,5 millions de billets à vendre, ils en ont vendu 2,3 millions. Les Jeux Paralympiques sont déjà un succès, bon, qui en doute aujourd'hui, hein. Les Français viennent en masse. Alors c'est vrai que c'est surtout des Français, hein. Tiens, j'étais au Stade de France hier, me dit Urcien. C'était cool en vrai, me dis-tu. Et depuis cette semaine, les enfants des écoles, également une occasion de les sensibiliser du handicap. Et moi, je vais manger mon chapeau sur ça. Parce que moi, j'étais un de ceux qui disaient, mais pourquoi ils ont mis 15 jours entre les Jeux Paralympiques et les Jeux Olympiques? C'est quand même dommage, ils auraient pu faire ça coller. Peut-être pas en même temps, c'est peut-être compliqué, mais alors coller pour profiter de la hype et tout, et du fait qu'on est encore l'été, que les gens ont du temps, ils font ça en pleine rentrée, les gens vont être rentrés. Ils travaillent, les gens sont à l'école. Et là, j'apprends que, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais que c'était un peu fait exprès, notamment pour que les enfants qui sont à l'école puissent aller voir ces Jeux Paralympiques. Alors je ne sais pas si c'est vrai cette histoire, mais si c'est le cas, je vais manger mon chapeau. Voilà. Ou cette casquette, parce que je n'ai pas de chapeau. Let's go, on y va. Après les Jeux Olympiques enflammés, on se demandait comment les Français accueilleraient les Jeux Paralympiques. Le résultat, il est sans appel. Tôt mardi matin, le cap des 2,3 millions de billets ont été vendus sur les 2,5 millions sur le marché. Moi, je vois des parents dans le chat qui me disent que leurs enfants sont allés avec l'école. Ouais. Je sais que les 15 jours, c'est principalement en raison de la logistique. À mon avis, on aurait pu faire plus vite. 15 jours de logistique, je ne sais pas. Je veux bien croire, hein, mais... Avec cette fois un public essentiellement national, puisque 92% des acheteurs sont français. 92% des acheteurs sont français. Voilà. Voilà, bah les étrangers sont là, mais ils sont beaucoup moins nombreux que pour les Jeux Olympiques. 52% des détenteurs de billets pour les Jeux Paralympiques avaient déjà succombé à la fièvre olympique. 52% des gens qui ont pris des billets pour les Paralympiques avaient déjà pris des billets pour les Jeux Olympiques. Comme ils ont été hypés par les Jeux Olympiques, ils ont continué. C'est vrai que c'est une grosse satisfaction pour nous de voir les stades pleins, dit Tony Estanguet. Non seulement ils viennent, les Français, mais ils mettent l'ambiance. C'est vrai que moi, je suis allé voir du basket fauteuil avec mes enfants, avec Hélène, et on a trouvé ça. On a passé un super moment. Les sportifs sont peut-être moins connus que ceux des JO, mais on sent que les spectateurs ont le même respect, la même admiration pour eux. Une nouvelle tranche de la population, ça c'est trop mignon, et c'est plus que mignon, c'est important, a fait son apparition depuis cette semaine dans les stades, dans les gradins, les enfants des écoles. Ouais, qui m'écrit là? Depuis lundi, des enfants arrivent de toute la France pour assister aux épreuves. Ils sont en tout 300 000, ben, je trouve ça assez impressionnant, à bénéficier des différents programmes qui ont été mis en place par l'État, par les collectivités locales. Voilà. C'est pour permettre aux scolaires de venir, que Paris 2024 avait souhaité qu'une partie de l'événement soit organisée au moment de la reprise. Ouais. Bon, je veux bien y croire. Je veux bien y croire. On a choisi ce moment-là pour permettre aux enfants des écoles de venir. Ouais. Bon. Ok. C'est marrant parce que ça, au moment du débat sur pourquoi les Jeux Paralympiques sont à la rentrée, je l'avais lu nulle part. Personne ne l'avait dit. Bon. Mais peut-être, peut-être. Peut-être. L'objectif en faisant... Je pense que c'est plus un truc de, effectivement, d'installation, quoi. L'objectif en faisant venir ces jeunes, ça c'est vraiment très bien, est de changer le regard sur le handicap, et ça c'est formidable. Parce que je pense que si on sensibilise dès l'enfance et les jeunes à la question du handicap et de l'inclusion, bah, je pense que ça prépare une société qui est plus inclusive. Voilà. Alors Captain Mamadi dit tout ça c'est de la rigolade, la plupart des places ont été attribuées au dernier moment. Voilà. J'ai un petit doute sur cette histoire effectivement moi. Bon, mais bon. Voilà. Poum dit si ça avait été le cas, il l'aurait sûrement dit dès le départ de la polémique. Ouais. Bon, je mange pas mon chapeau du coup. Alors, il y a du monde dans les stades, il y a du monde devant la télé aussi. Les fans aussi au rendez-vous derrière la télé. France Télévisions connaît un bon lancement. Hein, c'est la première fois que des Jeux Paralympiques sont autant diffusés par à la télévision. Le 28 août, 10 millions de téléspectateurs pour la cérémonie d'ouverture. 52% du public. 3 millions de personnes pour le rugby, 24% d'audience sur France 2 le 31 août, 4 millions pour la paranatation sur France 2 le 30 août, près de 5 millions pour le para-athlétisme sur la même chaîne, 28% des résultats qui sont déjà 3 fois supérieurs à ceux de Tokyo. Ça, c'est cool en vrai. Bon, ça, c'est un fait. Hein. Jamais des Jeux paralympiques ont autant été médiatisés, autant diffusés à la télé. On est sur des audiences 3 fois plus importantes que les Jeux de Tokyo qui déjà avaient été un record. Voilà. Alors, Sugar Lilou me dit que l'école de son fils avait des places depuis le mois de juin. Oui. En tout cas, je trouve formidable que les enfants viennent voir ça en masse. Alors, c'est formidable qu'on parle du handicap, qu'on mette en lumière le handicap, qu'on parle d'inclusion. Évidemment, il faut que ça continue. On a un pays qui, ces dernières années, a fait des choses en matière d'inclusion. Hein. Oui, un peu. Dans le domaine de scolaire, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine des équipements, un peu, mais clairement pas assez. Quoi. Et c'est ce qu'écrit Jonathan Boucher-Petersen dans Libération ce matin. Il faut que le succès de ces Jeux paralympiques soit un point d'appui et non un aboutissement, un début et pas une fin. Quel pied ? Ça, je ne l'aurais pas fait, ça, moi, personnellement. Enfin, je ne sais pas si Jonathan Boucher-Petersen l'a fait exprès. Je crois qu'il ne l'a pas fait exprès. Mais il commence son article par « Quel pied ?» point d'exclamation. Je crois que c'est pas une vanne. Je crois qu'il l'a pas fait. Alors moi, je lis souvent Jonathan Boucher-Petersen. C'est pas un gars qui fait des blagues dans ses articles. Et je crois qu'il l'a pas fait exprès. Enfin, je pense... C'est fait exprès ? C'est pas son écriture habituelle, hein ? Ouais. Ouais. Elle est... Ouais. 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 Merci, Axolotad. Comment vas-tu ? Ouais. Je passe... Ça, ouais, j'ai un doute, moi. Je sais pas. Moi, j'aurais pas écrit quel pied, moi. Ouais. J'aurais pas. Je crois qu'il a pas fait exprès. Peu importe. On les attendait avec bienveillance, pétris de bons sentiments, mais largement ignorants. On les regarde jour après jour avec enthousiasme, admiration, fierté cocardière, scotché par le spectacle et les émotions que génèrent les performances de ces champions. Les Jeux paralympiques de Paris sont déjà un succès, qu'il s'agisse du bilan sportif de la délégation française déjà équivalent à celui de Tokyo alors qu'il reste plusieurs jours de compétition, mais aussi de l'affluence hein, dans les stades, qui affiche bien souvent complet, et des audiences sur le service public qui a mis en place une couverture sans précédent de l'événement. Quand des choses bien sont faites, je crois qu'il faut le dire. Il se passe quelque chose dans le pays, et cela doit être non pas un aboutissement, mais un solide point d'appui qui doit permettre aux 12 millions de citoyens en France porteurs de handicap visible ou invisible, parce que souvent on oublie la question du handicap invisible, hein, et les gens qui en souffrent, c'est pas très cool pour eux, de voir la société les considérer enfin pleinement. Qu'il s'agisse de la prise en charge de leur handicap, des appareillages coûteux qu'ils nécessitent parfois, de leur accès à l'emploi, de l'accessibilité à tous les bâtiments, mais aussi, ce n'est pas un détail, de leur pratique sportive, au cœur de bien des constructions quand le handicap est de naissance ou de reconstruction quand il est la conséquence d'une maladie ou enfin d'un accident qui vient percuter le cours d'une vie. Voilà. Jonathan ne parle pas de l'école, mais l'inclusion à l'école, c'est aussi un chantier essentiel. C'est maintenant à nous de changer notre regard sur le handicap en conservant la bienveillance qui doit régir toutes les relations humaines et l'admiration que suscitent les exploits d'un athlète valide ou handicapé. C'est également, et peut-être même surtout au pouvoir public, hein, d'être au rendez-vous et aux électeurs d'en faire un sujet majeur au moment de voter. Oui. Il y a encore fort à faire, oui, pour mobiliser les foules et faire en sorte que chaque valide se sente concerné par le sort des personnes en situation de handicap. Il faut peut-être, glisse Libération, se mettre dans un coin de la tête qu'un jour, par l'âge, par le vieillissement, on sera tous un peu concernés par des pertes de mobilité et que finalement, mettre en place une société plus inclusive pour les personnes en situation de handicap, c'est quelque part aussi faire une société plus inclusive pour toutes les personnes qui, à un moment, pour des raisons X ou Y, notamment de vieillissement, eh bien, sont dans leur déplacement limité. Quoi. Voilà. Bon, le vieux que je suis et le plus vieux que je serai demain, ça l'intéresse aussi. Voilà. Bon, moi, je signe sur chaque mot de cet article. Bon, le calpier, peut-être pas, mais le reste, GG. Bon, faisons ce vœu que le mouvement dure au-delà des Jeux paralympiques, bien sûr. Voilà, je suis ergothérapeute, je peux vous dire que le côté handicap, on est vraiment loin par rapport à d'autres pays. Me dit Lord Tistou. Dis-moi lesquels, parce que je pense qu'il y a des pays où c'est bien pire, mais quel pays pourrait être cité en modèle par rapport à leurs efforts vers les personnes en situation de handicap? Ça m'intéresse. Cyril, au fait, Samuel, penses-tu que la Bretagne serait devant la France au classement des médailles si elle était indépendante? La Bretagne serait en tête du classement sur tous les sujets, pas seulement sportifs, tout le monde le sait. Suède, Québec, Japon, alors Libération en parle, Belgique, Suisse, Finlande, Canada, Espagne, ok, Danemark, le Japon est au top, ouais, c'est vrai que c'est. Québec, Belgique, ok, Québec, Belgique, ça revient beaucoup au Japon aussi, hein. Ok. Ah pardon, Cyril me dit, tu as mal lu mon message Samuel, la Bretagne serait devant la France au classement des médailles et je demandais ce que tu en pensais. Bah moi j'en pense que la France est, que la Bretagne est numéro un de n'importe quel classement sur n'importe quel sujet si tu veux. Donc ça me surprend pas beaucoup ce que tu dis. Hein? Quelle est la surprise? Quelle est l'info? Et les quelques isolés, les foufous là, les fadas, les illuminés qui viennent dire dans le chat là, la Normandie c'est mieux. On souffle! On souffle! Non, j'ai rien contre les Normands. Pas grand-chose, les pauvres. Alors, et on va finir avec. Bon, je fais appel à l'intelligence de la modération de Twitch. Hein. La représentation du nu de façon artistique n'est pas de la nudité, bien sûr. Vous savez que Twitch a une politique très rigoureuse en matière sur la nudité. Bon, moi, j'ai eu des sujets avec Twitch dans le passé. J'ai eu deux bans provisoires de plusieurs jours pour cette raison. Voilà, depuis, on s'est parlé, j'ai fait passer des messages et normalement, il n'y a plus de problème. Donc, je dis ça parce qu'il y a un tableau en haut à droite où on voit une représentation d'un buste de femme. Évidemment, c'est de l'art. Je n'ai plus d'inquiétude là-dessus. Et de toute façon, à un moment, il faut se mettre un petit peu des neurones dans le cerveau. Pourquoi je vous montre ces pages dans la croix? Parce qu'il y a un magnifique article sur une exposition qui s'annonce incroyable sur le surréalisme au Centre Pompidou, à Paris. Hein? Foisonnante avec 540 œuvres et documents d'archives, l'exposition Surréalisme au Centre Pompidou fera date. Alors moi, c'est un mouvement artistique, littéraire, mais pas seulement, pictural aussi, qui m'a... Et on ne sexualise pas les seins. Tu as raison, en plus, Faster Blast. En plus. Moi qui m'a passionné, ce mouvement que j'ai découvert à l'adolescence. Et cette expo a l'air insane. Conçue comme un labyrinthe où l'on se perd avec délices entre les chefs-d'œuvre de Magritte, le Belge, Dali ou Max Ernst, l'accrochage dévoile aussi une myriade de surréalistes moins connus. Ça a l'air totalement un banger, cette expo. Il fait la part belle aux femmes, d'ailleurs. Et à l'expansion internationale du mouvement. Le surréalisme à rebours des idées reçues. Pour le centenaire du mouvement, parce que j'apprends que c'est le centenaire du mouvement surréaliste. D'accord? Ouais. Le Centre Pompidou revient sur la folle aventure de ceux qui voulaient changer la vie, parce qu'il y avait aussi un message politique. Hein. Surréaliste, alors le mot est passé dans le langage courant, vous le savez. Hein. L'adjectif aujourd'hui galvaudé témoigne de la popularité de ce mouvement fondé en 1924, donc c'est le centenaire. Par André Breton, hein, le pape du surréalisme, comme on l'a pu le nommer, et ses amis. Pourtant, ce succès a son revers, si l'écriture automatique, les cadavres exquis, les collages, les chimères oniriques de ces artistes marqués par les recherches de Freud. Hein, c'était beaucoup question du rêve, notamment dans le surréalisme. On coquille notre imaginaire, à l'instar de la femme violon de Man Ray ou des montres molles de Dali, ils ont éclipsé la diversité d'un surréalisme bien plus varié qu'il n'y paraît. À travers 380 œuvres de plus de 130 artistes, dont l'expo a l'air folle quand même, et un catalogue nourri par une pléiade d'auteurs, l'exposition du Centre Pompidou dépoussière l'image de ces rêveurs subversifs. Aller voir une expo va être poétisé maintenant. Oh, mystérieux, putain, j'aurais... C'est fou. Je lis le message et je me dis, tiens, ça pourrait être écrit par mystérieuse, ça. C'est incroyable, mystérieuse. Écoute, mystérieuse, les surréalistes étaient engagés à gauche. Les surréalistes ont été des compagnons de route du Parti communiste. Bah, c'est comme ça. Les surréalistes surréaliste était engagé à gauche. Point. C'est un fait. Voilà. Alors, c'est pas en allant à une expo sur le surréalisme que tu vas devenir de gauche. Surtout pas toi, Mystérieuse. Si je me rappelle des derniers messages dans le chat qui nous emmènent plutôt très à droite. Plutôt, hein. Mais bon, c'est assumé. Hein. Je crée pas de polémique. Mystérieuse, elle est là, et c'est très bien d'ailleurs pour porter une parole plutôt par là, tu vois. Donc voilà, les artistes ont le droit d'être engagés quand même. Je continue. Mais on cherche toujours avec Mystérieuse, c'est toujours rigolo. Ici, il y a des gens de plein de sensibilités, d'opinions différentes, et c'est très très bien. Des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi, et c'est très très bien. On l'a un peu oublié, mais loin de se cantonner à l'art et à la littérature, les surréalistes se sont constamment mêlés de politique, écrit Lacroix. Pardon. De nombreux tracts et documents d'archives dans l'exposition du Centre Pompidou rappellent leurs différents engagements. Ulcérés par la boucherie de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, marquée par la Révolution russe, André Breton et la bande des surréalistes affirment des positions anticoloniales dès 1925, contre la guerre du Rif au Maroc, contre l'exposition internationale, coloniale internationale à Paris de 1931, pour la liberté du peuple vietnamien en 1947, pour le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie en 1960. Donc oui, il y avait un message politique qui était porté par les artistes surréalistes. Adhérent au Parti communiste français en 1927, oui, mais critique vis-à-vis des dérives totalitaires du stalinisme, ils sont exclus du PCF en 1933. En réponse aux monstres fascistes qui grandissent en Europe, André Breton fonde en 1937 avec Georges Bataille la revue Minotaure. Entre 39 et 41, beaucoup de ces artistes vont s'exiler aux Amériques, tandis que d'autres vont rentrer en clandestinité, en résistance, ex-compagnons du mouvement, Louis Aragon, Paul Éluard, l'immense Paul Éluard, René Char, Georges Malkin, Robert Desnos s'engagent dans la résistance. Dénoncé, ce dernier périra en déportation. Voilà. Des artistes, mais aussi des hommes engagés. À Libération, alors que les communistes entrent au gouvernement, les surréalistes, eux, renouent avec l'anarchisme de leur jeunesse. Ils collaborent dans les années 1950 à une revue qui s'appelait Le Libertaire. Dès 1920, André Breton et Louis Aragon dénoncent dans Le Démon du Foyer les murmures indistincts des femmes rétives qui nous parviennent à travers les murailles de l'esclavage, parce qu'en fait c'était des féministes aussi, hein, on est dans les années 20, dans les années 30, hostiles à toutes les formes d'asservissement, morale, sociale et politique, le surréalisme va attirer plus qu'aucun autre mouvement d'avant-garde, nombre d'artistes femmes avides d'émancipation. Marie-Paul Béranger, s'apprête à sortir une anthologie qui s'appelle « L'araignée pendue à un cil ». Et dans ce livre, elle remet en lumière 33 femmes surréalistes ainsi, qui furent loin d'être cantonnées au rôle de muse. Mais qui, à mon avis, dans l'histoire du surréalisme, ne sont peut-être pas assez mises en avant. Par sa naissance dans les cercles parisiens, le surréalisme a pu apparaître comme intimement lié à la topographie de la capitale, donc à un mouvement très parisien. Mais c'est oublié aussi que le surréalisme s'est exporté, a rayonné à l'international. Je remercie Kezoche pour le Prime, Lazoupette pour le soutien, Lao Gralo pour le 16e mois. Merci à tous les trois. À côté d'un René Magritte qui est belge. Hein. Vous vous rappelez, ceci n'est pas une pipe, c'est Magritte ça. Qui fonde dès 1926 avec des amis poètes une antenne en Belgique. Sait-on à peine qu'un an plus tard au Japon, hein, Shuzo Takiguchi publie une anthologie de poésie surréaliste entraînant nombre de Japonais, de compatriotes dans son sillage. En 1928, le mouvement gagne le Danemark. La Roumanie devient un foyer actif, la Yougoslavie à l'époque, la Tchécoslovaquie. Dans les années 30, les expositions surréalistes fleurissent à Prague, à Tokyo, à New York, à Londres, voilà, à Los Angeles, au Chili, et même un groupe surréaliste apparaît au Caire en 1938. Un an avant la disparition d'André Breton, qui est l'un des fondateurs du surréalisme, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, la dernière exposition internationale du surréalisme, L'écart absolu en 1965, dénoncera le triomphe d'un monde envahi par le consumérisme et livré aux ordinateurs. Est-ce que cette exposition n'a pas l'air incroyable, hein? Est-ce que cette exposition n'a pas l'air incroyable? Ça commence quand ce truc-là? C'est au Centre Pompidou, du 4 septembre, ah bah c'est aujourd'hui, jusqu'au 13 janvier. Bah, je peux vous dire que moi je vais y aller. Hein, ça a l'air bien cool, hein? Ouais, tout à fait, Étienne. Merci Fibucoc pour le Prime. Hein, c'est pas mal. Quelle heure il est? Oh, on est large. Bon, normalement, je m'étais dit que la revue de presse, qui exceptionnellement ne serait pas dans mon studio habituel, pour l'exclamation studio dans le chat, Les jours où il y a MVP, aujourd'hui c'est la première de MVP, je la ferai genre à 10h, tu vois, une revue de presse un peu express. De 1h45 et bam, à midi, je vais au studio. Mais bon, emporté par mon élan, j'ai voulu faire les choses bien et vous faire une revue de presse un peu plus longue ce matin, donc en commençant plutôt, à, comme d'habitude, à 9h. Du coup, on est en avance, on est large, sachant qu'à 11h45, en gros, je vais monter au studio. On ne cuttera pas le stream, hein, je mettrai ça. Je mettrai pause. Et 10 minutes plus tard, on se retrouvera dans le studio de MVP. Point d'exclamation MVP dans le chat pour avoir toutes les infos. Ma nouvelle émission sur Twitch. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et surtout, n'hésitez pas à propos. Putain, faut que je remette la caméra peut-être. Et surtout, n'hésitez pas à propos de MVP. Donc, MVP, ça va durer 2h30 à peu près. Hein Corne. Et n'hésitez pas à me faire vos retours, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Voilà. Au niveau du fond, de la forme, voilà. On sachait que les modérateurs, les modos de la chaîne sont un peu dans la confidence parce qu'on a fait une émission pilote en juin dans les conditions du direct, donc on a fait un numéro zéro et en fait les modérateurs étaient là, voilà, et ils ont été très discrets parce qu'ils savent tout déjà depuis le mois de juin, ils ont rien dit, GG à vous, et ils ont déjà fait un travail incroyable de retour, de suggestion sur l'émission. Donc l'émission que vous allez voir, c'est déjà une émission qui a été qui a progressé grâce au conseil de ceux qui l'ont regardé en juin dernier. Ouais. Il y aura une... Oui, ce sera en replay, bien sûr. Ouais. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est midi. Et avant 45, on fera un petit tuto maquillage. Je vais me maquiller en direct, tant qu'à faire. Comme ça, je serai prêt vite fait. Salut Alexandra, merci d'être avec nous. Je cherche un nouveau chemin de vie, ça tombe bien. Eclagma, c'est ça qu'on va essayer de faire. Le pitch de MVP, c'est explorer les voies professionnelles, montrer des voies professionnelles, des secteurs, des métiers, recevoir des invités. Écouter des chroniqueurs, 3 chroniqueurs, 3 invités à chaque émission, ça fait 6 personnes différentes qui vont passer, voilà, pour montrer des secteurs, des métiers, voilà, donc montrer des voies pour que chacun puisse trouver la sienne, c'est un peu l'idée. Un peu de stress? Non, ça va, Starot. Hier soir un peu, ouais. J'avais l'impression que c'était à la rentrée du coup, alors que je travaillais tout l'été. Ouais. J'espère que ce sera en podcast, on est en train d'en parler, ouais. On connaît le thème du jour, c'est... Non, il y a un thème, le premier thème pour la première émission, c'est les métiers passion. Métiers passion. Voilà. En fait, c'est un thème à chaque fois. Voilà, là, c'est les métiers passion. Est-ce qu'un métier doit être une passion? Quels sont les métiers passion? Est-ce que le travail doit être une passion? Voilà. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on peut pas être très... Est-ce que la passion dans le métier peut apporter quelque chose? Quoi? Est-ce que la passion dans le métier... n'a pas ses risques aussi, en termes d'investissement personnel, en temps, en énergie, voilà. Est-ce qu'un métier qui n'est pas passion ne peut pas aussi contribuer à l'équilibre, au bonheur? Oui, voilà. Donc ça, c'est le thème aujourd'hui, ce qui va nous permettre d'aborder à chaque fois des métiers bien concrets. Et puis, après, il y aura d'autres thèmes, on va parler de l'IA, on va parler de travail à l'étranger, on va parler de plein de choses. Voilà. Oui, je suis au The Event Flavius Aesius. Si tu as point d'exclamation DG dans le chat, tu as même mes donation goals. Merci Mathuris pour les bits. Merci chez SOTV pour le soutien. Merci encore Flibucoc. Voilà. Faut-il être passionné par son travail? C'est une question que je pose du propre, on va essayer d'y répondre tout à l'heure. Ouais. La réponse, c'est pas forcément en fait. Ça peut, mais c'est pas une obligation. Non, non pas BG. DG. Non, BG, c'est là. Et DG, voilà. Est-ce qu'on peut participer par nos témoignages? Oui, aux fleurs. Alors moi j'étais surpris, je ne m'attendais pas à ça, depuis le lancement de l'émission, depuis qu'elle a été annoncée, j'ai reçu des dizaines de propositions de participation à l'émission, de témoignages, témoigner de leur métier, de leur secteur, voilà. Je ne m'attendais pas à ça et donc je ne l'ai pas fait encore. Je vais faire suivre tous ces messages, tous ces mails à l'équipe de l'émission pour justement qu'éventuellement on reçoive certains de, d'entre vous pour témoigner, pour voilà. Je m'attendais pas du tout à ça, en fait, c'était assez surprenant. Je suis à 80 heures de travail en 5 jours, je crée une IA et vivement ma pause. Waouh, Von Sid, bon, on est sur un métier passion, mais attention à toi, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouveautés au niveau de l'info politique? Est-ce que le président Macron a fait des annonces ou pas depuis ce matin? En train de regarder. C'est quoi les dernières infos? On a un fil du monde qui nous donne un peu les dernières infos, le monde, le journal. Attendez, je vous montre ça. Voilà. Nouveau Premier ministre, retrouvez les dernières informations sur les consultations menées par Emmanuel Macron. Ouais. 10h59, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Ça, c'est impressionnant. Déjà plus de 1500 décisions prises au titre des affaires courantes. Le chiffre est massif, écrit Le Monde, écoutez ça. Plus de 1500 décrets arrêtés et autres actes juridiques pris par le gouvernement Attal depuis sa démission. Ce gouvernement démissionnaire, qui n'a plus la légitimité d'être soutenu par des députés et par le vote des Français, hein, c'est un gouvernement démissionnaire, a pris 1500 décisions. Alors, beaucoup relèvent des affaires ordinaires, des affaires courantes, comme on dit, mais, écrit Le Monde, plus le temps passe, plus certaines décisions présentent un caractère clairement politique. Par exemple, celle prise le 31 août, parue au journal officiel, à cette date, à propos des prix d'électricité. Le gouvernement y demande à la Commission de régulation de l'énergie de revenir sur son projet d'augmenter de 4,8% le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre porte-monnaie, ça. Voilà. C'est incroyable. C'est fascinant. Le Monde qui nous remet la composition actuelle de l'Assemblée, hein, pour ceux qui se... voilà, c'est ce petit... comment dire, un camembert, c'est ça? Ce camembert qui nous fait quand même comprendre en un clin d'œil la complexité de la nouvelle donne politique, regardez. Hein, on voit clairement qu'aucun bloc n'a la majorité. Vous avez ici... c'est quoi ici? Donc en rouge... là, ce bloc rouge ici, c'est NFP. Attends. Non, parce que les écologistes sont en vert. Qu'est-ce qu'ils ont mis en rouge? Ils ont mis la gauche démocrate et républicaine. Ils ont mis... Bon, c'est LFI en rouge. Oui, en rouge, 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 LFI. À gauche, là, gauche démocrate et républicaine. En vert, écologiste. Et en rose, socialiste. Là, on va dire le groupe de la Macronie au sens large, là. Avec les démocrates, Horizon et Indépendants. Ensemble pour la République. Au sens très large, on va dire, ouais. Voilà, ici en bleu, la droite républicaine. Ça, c'est pour répondre à ceux qui disent mais pourquoi c'est pas un gouvernement de droite? Pourquoi parce qu'en fait, ils ont la majorité, la droite, pour gouverner. Bon, bah, ça en bleu, c'est la droite. Voilà. Alors après, il y a ceux qui veulent appeler la droite l'extrême droite. Là, forcément, ça change tout. Voilà. C'est chamarré, exactement, exutoire. Et là, évidemment, là vous avez le bloc d'extrême droite en marron. Voilà. Et il y a quelque chose à l'extrême droite de l'extrême droite? C'est quoi? C'est qui? Zemmour, ils ont des élus? C'est des violets. Liberté, indépendant, outre-mer et territoire. Ah non, c'est Liot! Oh, bah c'est curieux. Ah oui, c'est Liot. Ouais, ouais, ouais. Ils sont pas... Ouais, d'accord. Ah, ils sont là. Attends, non. Il y a les non-inscrits qui sont là. Et puis là, il y a le groupe Liot. Ouais, qu'avec des députés de différentes sensibilités. Ok, c'est marrant. Ok. Ça, c'est les dernières infos dans Le Monde. Ok. Donc là, c'est bizarre. Alors, c'est bizarre, les pubs sur Internet, il y a un monsieur là qui est un peu mon... Ça pourrait être, on dirait moi d'ailleurs, on dirait mon ventre, qui est en train de faire l'entraînement de la chaise là. Bon, très intéressant. Oui, je suis à droite là, oui. Vous me voyez ou pas là? Incroyable ça. Je voulais cacher cette campagne de pub, mais bon, c'est elle pop là, je peux rien faire. Ça, c'est moi le matin, ça. Zoom, non, ça va aller, ça va. Peut-être qu'on va vivre cette scène aux The Event, puisque j'ai un donation goal où j'ai dit que si on arrivait à un certain montant, je montrais mes tatouages. Hmm. Waouh. Bon ben, de passer en revue les dernières informations nous montre que on n'est pas plus avancé, quoi. Incroyable, incroyable. Ok. Les amis, quelle heure il est? 11h30. Bon ben, je vais vous faire un petit tuto. Le tuto, ouais. Il y a Maya Erléa qui écrit le tuto. Alors, le tuto, c'est on va faire un tuto make-up. Alors, je vous explique. Là, à midi, normalement à midi pile, on va essayer d'être précis, démarre ma nouvelle émission MVP, qui est dans un studio au-dessus là. Quelques étages à monter. Voilà. Donc il y aura 10 minutes de pause. Je vais vous mettre un waiting screen et puis je remonterai et tout. Voilà. Pour gagner du temps, plutôt que passer voir la maquilleuse, on va se maquiller maintenant. D'accord. Alors, un maquillage de garçon, en fait, c'est basique. Un maquillage de femme, c'est plus compliqué, c'est un peu plus subtil, évidemment. Un maquillage de garçon à la télé, en vrai, c'est tu mets une crème base nourrissante, tu vois. Tu mets un fond de teint. Tu mets un fond de teint et tu mets de la poudre, hein, en télévision. Tu mets de la poudre. Alors évidemment, quand c'est fait par une professionnelle, c'est assez subtil, c'est bien fait. Ça te met un petit peu de. Ça peut te mettre des trucs un petit peu sur les cils, là, pour rendre le regard un peu plus pénétrant, un peu plus dense. Voilà. Ça joue sur les cernes. Hein. Ça met un fond de teint d'une couleur un peu différente sous les cernes, etc. Et tout, quoi. Voilà. Bon, moi, pour gagner du temps, ça fait très longtemps, notamment sur France Info, voilà. Que j'ai appris à me maquiller moi-même. Enfin, me maquiller moi-même. Évidemment, ce ne sera pas du niveau des Lydia, puisque vous savez que c'est l'un des Donation Goals des Lydia, qui sera au The Event à Montpellier avec nous. L'un de ces Donation. Ah non, c'est un de moi, ça d'ailleurs. C'est un de mes Donation Goals. Si on l'atteint, et Lydia me fait le maquillage qu'elle veut. Voilà. Donc ce ne sera pas de ce niveau-là, mais ce sera mon petit maquillage rapide, quoi. Mademoiselle Bébé, pourquoi tu dis MVP et pas MVP puisque ton titre est en français? Parce qu'en fait, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Le titre, c'est Ma vie pro, mais c'est un clin d'œil au Most Valuable Player. Voilà. Et puis, c'est aussi pour pas passer totalement pour un plouc. Parce que si je disais MVP, bah, j'aurais la moitié du chat qui dirait mais pourquoi tu dis MVP? T'es complètement con ou Voilà, bien MVP. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Hein? Alors, bienvenue dans MVP. Vous savez comment on dit dans le basket, là? Ou dans les jeux vidéo? Tiens, ça va se foutre de ma gueule encore. Comment ça, la modestie légendaire de Samuel Etienne? Je suis MVP sur mes games de Valo. Hein? MVP, mon vieux papy. Merci, Néo. Yeah, super, super. Ok. Allez, tuto make-up, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour le tuto make-up? Ok, vous allez voir, ça va durer 2 secondes. Ok, bougez pas. Ah oui, j'ai mon goûter aussi. Ah non, non, non. J'ai mon goûter aussi. J'ai mon goûter aussi. C'est parce que je m'étais apporté un petit goûter parce que je me suis levé à 4h ce matin. J'ai lu les journaux, après je suis venu ici. Voilà. Donc je me suis apporté un petit. Parce que là après, je repars pour 3 heures de direct là après. Ah bah oui. Bah je vais manger mon goûter. Regardez, je me suis fait un. Comme les enfants. Je me suis fait un petit goûter. Il y a un décalage son, Samuel? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Un petit F5 peut-être? Pas grave, c'est pas grave. On est sur le goûter, c'est pas très grave. Ah bah on voit que le papier a lu. Ah bah c'est juste du pain de mie en fait. Hein. Merde. C'est juste ces 2 tranches de pain de mie blanc. Voilà, ça c'est mon goûter. Pour me relancer un peu quoi. Et après j'ai une banane. Non, c'est bizarre parce qu'elle est sous. Je l'ai mis sous alu, donc ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être une chipot. Ça pourrait être une merguez. C'est une banane. Mais c'est. Elle avait déjà un emballage de la banane, oui, mais dans mon sac, et comme elle est mûre. Ça mûrit trop vite, ça. Dans mon sac, il y a les ordinateurs, il y a les batteries, les machins. Donc si ça crache dans le sac, Oui, allô, qui m'appelle? Ouais. Ils offrent les mêmes déjeuners à Fleury-Mérogis. Oh bah moi, je pourrais manger des cailloux en vrai. Donc, Étienne, j'ai déjà écrasé une banane dans mon sac aussi, c'est chiant à laver. Je sais. Quel enfer la banane qui te pose dans le sac. Merci, Maya. Il y en a qui savent. Elle est pour manger la banane? Bah oui, je vais pas me le mettre sous l'oreille. Assassin, tu vas tuer ma sœur? Alors, j'ai pas la rêve de la. Ah, c'est Monsieur Banane. Il y a un Monsieur Banane dans le chat qui dit Assassin, tu vas tuer ma sœur. Ah ouais! Si tu manges à l'hôpital un jour, tu vas te régaler. Ah ouais. Tu sais qu'il existe des Tupperware exprès pour les bananes? Ouais, je sais, il y a des Tupperware qui sont en forme de banane. J'en ai à la maison. Ma copine m'a offert un étui à banane. Ça a changé ma vie. Ok. Alors, le Tupperware à banane, l'étui à banane, ça existe. Bon, je vais vous montrer. Mais en vrai, je trouve pas ça très sexy, quoi. Étui à banane. Alors, je vous mets pas la scène parce que je tape étui à banane, j'ai peur de ce que je vais trouver, tu vois. À un moment, tu peux vite partir sur des dingueries, quoi. Déjà qu'on a montré un tableau surréaliste avec une femme dévêtue tout à l'heure. Alors, étui à banane, je vous mets pas la scène. Vous m'en voulez pas? Parce que là, on peut tomber sur n'importe quoi. Hein. Alors, image. Ça a l'air d'aller. Voilà. Je vous montre. Attends, je peux montrer ça. Oui, d'accord. Attends. Google. Voilà. Mais tu as banane, c'est comme ça. Tu vois, c'est comportement plastique en forme de banane, c'est incroyable. Mais je trouve pas ça très sexy en fait. Il faudrait un coupeur de banane. Un quoi? Un courbeur de banane ou un allongeur de banane pour qu'elle ne se casse pas. Un allongeur de banane, ça me rappelle un truc ça. Un allongeur de banane? Bon, on me rappelle un truc. J'ai reçu des pubs là-dessus. Des pop-up. Ça existe, je crois. Cette scène où je me restaure peut sembler anecdotique, mais elle est très importante pour la suite de la journée. Si je ne mange pas maintenant, le MVP va être foutu. Hein? Il faut relancer la machine là. Sinon, je vais arriver sur MVP, les gens disent, mais il est mou, il est fatigué. Il est vieux, enfin, c'est normal, ça, il est vieux. Mais il est mou, il est fatigué. Alors, donc il faut faire le plein d'énergie. La banane est un fruit qui a beaucoup de qualités, mais qui mûrit trop vite. Tu les achètes et 2 jours après, elles sont toutes. Trouvez pas? Belle banane, merci Farvel. Tu peux pas être mousse à la banane, c'est pas faux. Faut les mettre au congèle? Ça fait une semaine que j'en ai acheté, elles sont toujours bonnes, mais comment ça se fait? Ça dépend d'où tu les achètes, c'est-à-dire. Il faut les mettre au frigo, ça tiendra plus longtemps. Ah! Faut pas croquer des bananes, malheur, moi. C'est-à-dire, tu fais quoi si tu les croques pas? Merci, Gérance, pour le 6e mois. Merci, Breton Stark, pour le 9e mois. Si tu les croques pas, tu fais quoi avec ta banane? Hein? Je mange pas la peau! Pas le frigo, elle noircit, sinon, bah mettez-vous d'accord. Hein. C'est un fruit qui mûrit avec la chaleur comme les avocats. Hein? Ça craint le froid, les bananes jamais au frigo. Bah, mais vous n'êtes pas d'accord, hein? Ok. Dans un instant, on va parler de métier, de travail, tout ça, mais là, on est sur un coup de projecteur banane. Si tu les croques pas, tu les manges comment? Comme une glace? Ben non. Ah, un spécialiste. Je suis maraîcher, je peux te dire qu'à part en plein été, les bananes, c'est pas au frigo. Voilà. Pourquoi elles sont courbées? On parle toujours de bananes, Étienne, là, ou t'es parti sur autre chose, là? Ok. Bon. Bonne nouvelle. On a fait plein d'énergie, on a mangé du pain de mie. J'ai mangé une banane. Donc on a fait le plein d'énergie pour MVP. Voilà. Et maintenant, tuto make-up. Et là, c'est les secrets là. Là, on est dans les coulisses là. Les secrets du présentateur là. Bon, qu'est-ce qu'on a dans son sac quand on s'apprête à présenter une émission où à un moment il y a du monde, il y a des chroniqueurs, des invités, faut être beau. Hein? Voilà. Bon, d'abord on se coiffe. Une petite brosse. Voilà. On range les cheveux. Voilà. On essaye d'effacer la petite barre de casque là, hein, la grand classique là. Voilà. Ça, c'est affreux. Putain, j'aurais pas dû mettre le casque, c'est un enfer, j'ai une espèce de. Voilà, bon. Tu brosses quelque chose? Je t'emmerde, Astréos! Quels cheveux? Je t'emmerde, Don Adriel! C'est juste une carence en vitamine D. Voilà. Pas mal là. Voilà. Il n'y a pas beaucoup à peigner. Je t'emmerde, Jeff. Tu brosses les sourcils ou pas? Non, mais je peux. Sachez que je me suis un peu coupé les cheveux hier soir, hier après-midi, je crois, ou hier soir, je sais plus. Voilà, je me coupe les cheveux moi-même. Bon. Les cheveux, c'est OK. Le déo. On s'est levé à 4 h du matin, on a bougé, on a lu les journaux, on s'est déplacé, etc. et tout. Eh ben, on se remet un petit coup de déo. On se remet un petit coup de déo avant l'émission. Oui, parce qu'on on a des invités. On a des... Ah, il est nul celui-là. Il n'y a rien qui. Un petit coup de déo pour bien pour sentir bon. Voilà. Voilà. Important ça. Ça, c'est le respect des autres. Ok. Ok, ça c'est fait. Oh, c'est un insecticide. C'est un truc contre les. C'est un truc contre les fourmis. Bon. Ça a une très bonne odeur. C'est une très bonne odeur. C'est pas grave. Et alors, et voilà. Et ça, vous ne l'avez jamais vu en direct. On se maquille. Alors, on se maquille. On va pas se mettre de fond de teint, on va pas se mettre rien du tout. On va prendre ce qu'on appelle un fond de teint couvrant. MAC, c'est les produits qu'on utilise en télévision. Voilà, toutes les maquilleuses ont ça. Je dis maquilleuse parce que c'est un métier qui est très féminisé, mais il y a des maquilleurs aussi, mais pas beaucoup. Voilà. Donc on a une petite poudre couvrante, voilà, avec une couleur qui correspond à la carnation. Voilà. Et normalement, il y a sous la poudre, voilà, une petite toupette comme ça. Voilà. Et là, on va. Alors, ça va rien changer. Hein, on va juste unifier le teint. On va unifier le teint. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, enlever les brillances. Je vois rien. Je vois au pif. Hein, de toute façon, je vois au feeling. Hein. Voilà. Le nez. Voilà. Moi, je le fais comme moi, comme un barbare. Hein, moi, je fais comme ça. Hein. Il y a Maya qui dit faut tapoter Sam. Moi, j'ai fait des années de France Info. Pendant des années, je me suis maquillé tout seul le matin. Je faisais comme ça. Voilà. Une petite rougeur du cou, là. Regardez, regardez. Regardez comment le teint s'est un peu unifié, là. Voilà. Voilà. Partout, ça va un peu briller. Voilà. Voilà. Un peu le coup, là. Voilà. Voilà. Je vois pas trop là. C'est OK? Voilà. Alors je ne fais ça que parce que c'est MVP, hein. Je me maquille pas pour les streams. Voilà. Le fond, me dit-on. Voilà. Voilà. Comment c'est? Vous voyez, c'est un peu. Vous voyez que c'est un peu moins. C'est plus uni, c'est plus. Voilà. C'est un peu blanc. C'est un peu blanc. Parce qu'en fait, ça, c'est bah, c'est mon teint normal de l'année. Évidemment, là, je suis un peu plus bronzé. Sort de l'été. Le crâne. Mais non, il n'y a pas besoin, il y a les cheveux là-dessus. Le mets sur ta calvitie aussi. Putain, le pins. Putain, je vais te ban, toi. Attends, t'es où, toi? Attends, il est où le pins? M'a oublié sur. Attends, je te cherche. Où est-ce qu'il. Ah, je l'ai perdu. Ah, merci, il y a Sugar Frog qui a épinglé le message de le pins. Voilà. Voilà. Et voilà. Et donc, je vais te bannir. Provisoirement, parce que c'est pour la blague, bien sûr. C'est un tout petit Théo. Voilà. Sans blague. Voilà. Voilà. Et je vais. Ah non, je vais pas rester habillé comme ça. Je vais mettre. Alors, j'ai un. Pour MVP, je vais mettre un t-shirt blanc. Voilà. Et il y a Martino qui dit voilà. Voilà, Martino, voilà. Voilà, donc, voilà. Et donc, voilà. 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 Voilà, donc. Voilà. Et donc, j'ai une veste, voilà. J'ai un t-shirt blanc, voilà. Pour faire une petite rupture. Bon, j'ai envie de dire une petite rupture stylistique. C'est tout? Ah bah oui. Enfin, moi, quand je me maquille, c'est tout. Voilà. 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 11h47. Bah normalement. Bah normalement. Bah attends, je vais normalement, on devrait venir me chercher là. Attends, j'envoie un message. Parce que normalement, on devrait venir me chercher là pour le studio. Parce que dans 13 minutes, normalement, on commence les. Alors il est où On doit venir me chercher, mais là, j'avais dit 45 et 47. Maxime, tu me regardes? Les messieurs en blouse blanche vont arriver. Ils n'ont pas de blouse blanche, qu'est-ce que tu racontes? Ah, ils m'ont oublié. Voilà! Ah, oh, c'est trop mignon! Maxime, il vient de répondre dans le chat, il dit j'arrive! C'est trop chou. On est mardi? Attends, on est mardi, c'est demain? Oh merde. Ça m'a. Oh! Ça se trouve, c'est demain. Attends. On t'attend. Oh, les gens de l'équipe sont dans le chat. Mais je sais, c'était une blague. Ils font venir que les personnes importantes à l'émission t'inquiètent. Merci, The Crêpe. Ok. Donc là, on vient me chercher. Je monte dans les étages. Je m'habille. Je mets mon t-shirt. Je fais un petit pipi sur la route. Et let's go. Voilà. Putain, je vais connecter mon. Je vais me servir mon iPad d'ailleurs, parce que. Tout le conducteur. Merde. Vérifie tes dents. Oh. T'en fous. Et déjà prêt. Hop, sur. Voilà. J'ai déjà tout le conducteur. Je vous montre. Ça par contre, c'est secret de construction. Ça. Voilà. Il y a un urinoir dans l'ascenseur? Ah bah oui, c'est pratique. Maxime! 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 Voilà Maxime! Ça va Maxime?
Ça va et toi?
Bah ouais, je vais brancher mon iPad sur batterie, tout est prévu. Ça va? Et là on va. Je me suis maquillé en direct.
Oui, j'ai vu.
On a bien rigolé.
Aucun sens.
Maxime est arrivé, les amis. Regardez, je mets une petite batterie sur mon iPad. Hop! Voilà. Vous êtes super nombreux, ça fait super plaisir. Ne partez pas! C'est la rentrée, la grande première de MVP, ma toute nouvelle émission sur Twitch qui parle de travail, d'emploi, de secteur, d'orientation, de voix, comment trouver sa voix. On reçoit des professionnels, on reçoit des chroniqueurs, ça va être trop top. Normalement, on commence à midi, peut-être qu'on aura une ou deux minutes de retard. Hein. Voilà, je vous mets un écran d'attente et je vous retrouve tout de suite. Donc on cut pas le stream, on continue. Hop, je vous dis à tout de suite, bande de beaux gosses. Et vous allez voir, ça va être super. Alors normalement, c'est là. On va couper le micro déjà.